18h, 20h, Fou de Sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, malgré un froid glacial, eh bien, nous sommes fidèles au rendez-vous, comme chaque dimanche, 18h, 20h, puisque, pardon, aujourd'hui, l'actualité est chargée. Sur ton deuxième heure, on parlera de courses dans le désert. On va aller du côté de Tamal Rasset, mais ce sera plutôt avec notre ami Michel Bizot du côté d'Aix-en-Provence. Et juste après, on ira ici à Paris pour parler de handball avec notre ami Selim Nedjel, notamment pour ce bilan catastrophique de la sélection algérienne de handball au championnat du monde. Et puis, comme le veut la tradition, il y a aussi une première heure qui sera réservée au football. C'est vrai que aujourd'hui, nous avons la chance de voir quelques grands joueurs évoluer dans les grands championnats. Il y aura un focus réservé à notre star international, je dis pas seulement national, mais international, en l'occurrence Riyad Mahrez, mais également un petit clin d'œil avec coach sur un garçon exceptionnel. Il le connaît très bien. Et en plus, je peux vous confirmer qu'il est il est originaire de la région de ma défunte maman. Il s'agit de Nassim Akrour.
Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Le coach est bel et bien présent, malgré le froid. Il est comme moi. Oui, j'ai oublié de vous dire, ça s'est passé hier. Voilà, je le dis en direct et j'ai pris 61 ans.
C'est un début.
Merci Nasser.
Bah oui, merci Nasser.
C'est la pente suivante, c'est ça?
Bah oui, comme tout le monde.
Mais oui, mais c'est le cycle de la vie.
Pour tout le monde. J'aime bien les gens, quand ils le disent, ont l'impression qu'ils interprètent.
Non, je pense que je les porte bien.
C'est l'intérieur de toi qui nous intéresse, parce que tu montres à l'extérieur.
Non.
Autre chose.
Ouais. Ça va, coach?
Ouais, très bien. Et toi?
Ouais, la Coupe de France?
J'ai suivi un petit peu là, les matchs, là, c'était intéressant.
Ouais, quand même.
T'as vu,
quand même, ouais.
Il y a eu des bons matchs, là. J'ai vu Chambéry-Lyon, là, c'était pas
ouais.
mal.
Ouais, même bon.
Ils font toute partie de la formation.
Ouais.
T'as pas remarqué une chose à Chambéry?
En fait, ils ont joué à Lyon, pas à Chambéry.
Oui, mais est-ce que tu as remarqué une chose rare dans le football?
Ah, Nassim Akrour?
Non, Nassim, je connais.
Nassim, ah, tu connais Nassim.
Bah, c'est mon joueur, c'était mon joueur quand même.
Ouais.
Non, t'avais pas de garçon de couleur à Chambéry, pas un.
Nassim.
C'est la première fois. Non, c'est la première fois que j'ai vu. Il n'y avait pas un black comme nous, là.
J'ai pas prêté attention.
Eh ben, moi, j'ai prêté à ça. Je prête souvent attention. Ben, je peux te dire qu'il n'y en avait pas.
Mais toi qui entraînes,
voilà. Ben oui, je regarde, j'ai punaise, il n'y en a pas. Et tous les mecs de Chambéry, c'est des joueurs qui sont formés par les clubs pro. Il faut aussi comprendre ça, je veux dire. Voilà, c'est quand même que le niveau, il monte tout de suite. Hein. Si t'es formé.
Et comment ils ont été cherchés, alors, Nassim Akrour à 48 ans, puisque lui, il veut jouer jusqu'à 50 ans.
C'est magnifique, hein.
Alors, ce garçon Nasser, 48 ans.
Magnifique.
Je vais d'abord saluer quand même Fodil. Il est là avec moi depuis le
Fodil,
début d'après-midi.
Bonsoir Mohamed, bonsoir coach, bonsoir à tous. Joyeux anniversaire avant toute chose.
Merci.
Longue vie et beaucoup de joie et de bonheur.
Merci.
Et beaucoup de santé pour que tu sois toujours avec nous.
Ouais, ouais.
On aurait dit Kim quand il parlait, quand il t'a dit bonne année, t'as fait la Kim.
On sent
que l'influence de Kim est là. Et Kim passe le bonjour à notre ami là.
Ouais, ouais. Salut Kim, on passe un big
salam.
Big salam, ouais. Alors du coup, je reviens vers toi, Nasser, ce Dis-moi. Garçon de 48 ans, il joue encore. Je lui ai fait un sujet de télé à l'époque de toute cette génération des Karim Ziani, etc. J'étais à Troyes pour un reportage. J'ai rencontré Karim Ziani, j'avais rencontré Rafik Saifi, etc. Et c'est l'année où Farid Razi était parti. Et qui c'est que je trouve? Nassim Akrour.
Ouais.
Je veux dire que 20 ans après, il est encore là. Plus de 20 ans. Parce que le sujet, je l'ai fait, je crois, en 2004 ou 2003.
C'est marrant, ça. Hein, bah, t'as vu, ils repoussent tous l'âge. Tout le monde repousse l'âge. À partir du moment où t'as une santé où tu n'as pas de soucis de santé, que tu gères bien ta récupération, que tu t'entraînes proprement, que t'as une vie tranquille, bien. Ben, et que tu as la motivation surtout, et ben, tu amènes ton sac. Parce que le problème pour ces joueurs-là, c'est de prendre le sac pour aller à l'entraînement, pas le match. Pour aller à l'entraînement le soir. C'est ça qui est compliqué. Et Nassim prend son sac, les doigts dans le nez, facile.
Normal.
Ah oui, il prend plaisir. Il est là, il prend du plaisir. Et là, il repousse un petit peu
Les limites. Hein.
Les limites de la santé, de dire que oui, t'as vu, voire être à 32, 33, ce qui était faux. Aujourd'hui, on le voit. Mais quand même, il y a des déperditions quand même.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, l'entraîneur a compris.
Bien sûr.
Il l'a fait rentrer en deuxième mi-temps.
Bah, bien sûr.
Dans la dernière demi-heure. Il ne va pas lui laisser jouer 90 minutes. À ce niveau-là, tu joues Lyon quand même en Coupe de France. C'est un autre calibre.
Exactement ça. Ouais. Il n'y a pas de niveau, bien sûr, sur le plan physique, sur le plan réactionnel, on va dire, sur le plan morphologique. Hein, parce que s'il va au contact, il risque de se blesser. Et si ça se blesse à cet âge-là,
c'est fini.
Ça c'est plus long. Ah bah oui, c'est fini. Mais non, on l'a vu, j'ai vu, j'étais content. Je me suis dit, tiens, Nassim, tu repousses l'échéance pour lesquelles les gens ils disent à 32, j'arrête, moi.
Non, non, je vais faire en sorte d'entrer en contact avec lui. Parce que. Ah non, mais justement, je sais que c'est un garçon qui est très, très ouvert, très charmant. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et moi, je sais que Nassim va tout simplement nous expliquer cette histoire de longévité. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il a duré? Pourquoi il a duré tant d'années que ça? Même si Chambéry, c'est de la. C'est la nationale. N2, c'est ça, la nationale 2. Ouais. Ouais. Bon, il y a quand même nationale 2, ça joue.
C'est bien. Ouais. C'est pas national. Mais bon, tu as vu, c'est pour repousser les. T'as des Cristiano Ronaldo qui ont 37 ans, qui ont signé 3 ans. C'est-à-dire qu'il va être 40 piges. Donc 40 ans, ça va être l'âge officiel d'arrêt des sportifs de haut niveau aujourd'hui. Je pense que ça va le devenir.
À l'époque, on le donnait à la serre, on le donnait pour les gardiens de but. Ouais. Notamment Dinosov, qui arrive à 40.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais et aujourd'hui.
Les joueurs de terrain.
Mais la première donnée qui fait que les joueurs vont plus loin, c'est qu'il n'y a plus d'impact physique. Il n'y a pas de blessure, il n'y a plus les attentats qu'il y a eu à une période. Tu n'as plus les défenseurs qu'on a reconnus il y a quelques temps et qui ont pris des coups pour tout garder.
Les Gentile, Coachella, qui étaient spécialement formés pour briser Maradona. Ces deux défenseurs, je peux le dire, je le certifie, Claudio Gentile et Andoni Goicoechea.
Ah oui,
et puis il y avait un autre joueur après espagnol, j'ai oublié son nom, ils étaient trois en tout. Leur spécialité, c'est casser du Maradona. Mais quand je dis casser, c'est pas casser la semaine d'après, on reprend le match. Hein. C'est
mais Foden, il était pas né encore.
Non, il Foden n'était pas né. On a connu ces défenseurs-là. Il y avait aussi les Bulgares.
Pas là,
voilà, c'était des défenseurs qui...
Et c'est pour ça que tu as les joueurs qui peuvent continuer leur carrière, qui n'ont pas eu des grosses blessures dans leur carrière. Quand aujourd'hui, on te touche à peine et que l'arbitre ici te protège.
Ah oui.
Donc les mecs courent, tout simplement. Et ils sont sur des beaux terrains, des beaux billards. Il y a plein de considérations autour du match qui fait que dans le match ça se passe super bien, t'as pas les terrains dansants.
Regarde les terrains des années 70, c'était la gadoue partout.
Bah oui, c'est ça.
Surtout même en Angleterre, hein. Je parle de l'Angleterre, c'est un pays de foot, hein. Leur terrain était vraiment des champs de patates.
C'est ça.
C'est la pelouse. Ouais, je me rappelle du
Kick and
Rush. Voilà. Regarde d'ailleurs la partie surface de réparation, là, c'est affreux, quoi.
C'est ça. C'est les raisons pourquoi que les sportifs vont un peu plus haut. Car ils sont protégés, réellement protégés par l'arbitrage et par les conditions autour de l'activité, que sont le terrain, le ballon, les pelouses, les conditions de récupération. Tout ça fait que si tu as pris deux tacles dans le genou et ta cheville, tu l'as retrouvé collé contre le mur, tu vas voir si tu vas continuer ta carrière. Impossible.
Et puis j'ai vu également à travers cette longévité, je me suis posé la question. On va le dire comme ça, de manière assez crue, il y a des joueurs qui vont quasiment à la quarantaine, même des fois plus, mais des joueurs de couleur à cet âge-là, on n'en voit pas pourquoi. Parce que précocement, ils arrivent de par leur morphologie physique, je parle là. Mmh. Ils arrivent peut-être très tôt dans le monde professionnel. Je le vois par exemple, tu prends les Nigérians ou les Ghanéens, quand on disait à l'époque U17, U19, les mecs c'était des armoires à glace.
C'est ça.
Et à 32 ans, tu ne les vois plus.
Mmh. Ah ouais. Ouais, parce qu'il y a la dissimulation des âges qui fait que les mecs.
Je pense que ça se voit.
Les mecs, ils viennent à 4, 5 ans de moins, mais bon, après, à l'arrivée. Quand tu dis qu'il a 33, il en a 38, 40 déjà, le mec. Hein.
À moins que.
Ouais.
Moi, Roger Milla, on a dit 40 ans. Quoi, donc, ça se voyait sur sa tête.
C'est autre chose. Oui, il y en a beaucoup. Après, il y a les morphotypes, les. Tu sais, comme on dit, la statue d'Ulysse, où tu es très costaud et tu as les chevilles très fragiles.
Ouais.
Moi, j'ai eu des joueurs comme ça.
D'accord.
Très costaud, d'une puissance phénoménale.
Ouais.
Et les chevilles ne tenaient pas.
D'accord. D'accord.
Même strappé et tout, serré pour tenir des chevilles. C'était, elles étaient faibles. Le maillon faible de beaucoup de joueurs sont là, sur leurs chevilles. Donc, voilà. Après, t'en as d'autres. Bah, ils continuent leur parcours et t'as vu, quand t'as une masse musculaire très, très importante, très lourde, c'est très compliqué de la transporter longtemps. Regarde Nassim Akro, tu vois, 40 ans, regarde comment il est fait physiquement. Très, très frêle.
C'est vrai.
Il n'y a pas beaucoup. Garçon de 40 ans qui est un peu plus costaud, même ouais. Cristiano Ronaldo qui touche là.
Oui.
Tu vois quand même qu'il est assez frêle, on sent qu'il y a plus, ouais. il y a un peu les os.
Ouais, ouais.
Même Karim, ouais. Benzema est pareil.
C'est vrai, j'ai remarqué.
Ouais, ouais. La morphologie qui joue beaucoup, beaucoup. Ouais. Joue beaucoup, beaucoup sur l'ancienneté, sur les.
Oui, donc, alors mon cher Fodil.
Il écoute la radio en même temps.
Voilà, merci de rester avec moi là.
Je suis avec toi.
Non, non, mais j'ai un son qui est passé dans le casque.
C'est ça, moi aussi.
Donc, je reviens toujours à Nassar sur cette histoire de morphotype de joueur.
Mais oui.
Les très grands, ils ont arrêté en moyenne à 32 ans.
Ouais.
Je me souviens de Platini, etc. Tout. Bah, les très grands joueurs, à 32 ans, ils décident d'arrêter leur carrière tout court.
Ça, c'était avant. Hein. Là,
oui, oui.
J'ai parlé
de Platini, oui, oui.
Mais actuellement, nous avons des joueurs qui sont en activité. Je peux te citer un exemple. On a des Modric, des Buffon à 44 ans. Modric est 37 ans. Karim Benzema, très âgé. Oui. Cristiano Ronaldo. Oui. Et là, parce qu'aujourd'hui, on a les moyens de récupération qu'avant, on n'avait pas.
Est-ce qu'il y a...
des raisons.
Oui, 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 bien sûr. Oui, ça joue, ça joue. Parce que ce sont les progrès de la médecine qui ont fait que...
Surtout l'arbitrage. Beaucoup l'arbitrage.
Beaucoup l'arbitrage ?
Bien sûr. Bah oui, tu siffles des fautes qui il y a 10 ans en arrière, on n'aurait jamais sifflé. Là, aujourd'hui, dès que tu touches un joueur, tac, paf, il se couche, hop, coup de faute, coup franc, tout de suite. Tu sais pas. Ouais. Pas d'attentat, il n'y a pas de tac, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'agression physique, il n'y a pas de duel. Là, tout à l'heure, j'ai regardé Wolverhampton contre Manchester City. Il y a un duel dans le couloir où le mec, il le frappe avec l'épaule, mais dur. L'arbitre, il a couru, il a voulu jeter sa veste. Il a voulu mettre carton rouge, orange, si vous voulez. Mais il lui met jaune quand même, mais on le prévenant. L'autre, il bouge plus, c'est fini. Donc tu te dis, pour un duel comme ça, il faut les comparer, les duels qu'il y avait il y a 20 ans et c'est aujourd'hui.
Mais on disait à l'époque, un assert épaule contre épaule.
Oui,
c'était réglementaire.
Oui, oui, mais bon, aujourd'hui, ils protègent les joueurs. Ils veulent des buts. Ils veulent que des buts. Le reste, on fout.
Et quand je vois aussi les fautes commises dans les surfaces de réparation,
ouais.
Avant, aujourd'hui, c'est équivalent à un piano direct.
Ouais.
Alors qu'avant, des fois, tu as vu une boucherie dans la surface.
T'as déjà fait les boucheries dans les trucs
avec Stam, Nesta, Cannavaro.
On disait rien. Il n'y a pas péno. Non, l'arbitre dit continue de jouer.
Exactement.
Des Gattuso.
Ah oui, encore Gattuso. Oui, oui, c'est Gennaro.
Sans oublier Stam, le défenseur néerlandais.
Ouais, c'est bien. Tu révises. Hein.
Non, je révise pas.
mais les plus durs dans ce domaine, dans la série, ils se rappellent, c'est les défenseurs néerlandais, hollandais.
Ouais, ouais. Non, les plus durs, c'est les défenseurs italiens.
Non, mais italiens, ils sont vicieux. Non, italien, c'est le
raison vice. De plus.
En gros, l'italien, tout le match, la série, il va me le confirmer, tout le match, c'est pas qu'il va... Il va te piquer, il va te...
Pourquoi l'Italie a remporté la Coupe?
Oui, par exemple,
ils avaient qui en défense? Ils avaient qui en défense en 2006?
Cannavaro, il y tient, non?
Attendez, ouais. Et vous, coach?
En 2006 de l'histoire avec Zidane?
Non, en 2006.
Ah oui,
ils avaient qui en défense?
Hein. Oui, Materazzi déjà face à Zidane.
Non. Ils avaient Buffon dans les buts, Zambrotta arrière droit, Grosso arrière gauche, Nesta et Cannavaro. En défense.
Et tu rajoutes donc devant les défenseurs.
Sans oublier Gattuso.
Et Materazzi était où?
Il était blessé. Et il était sur le banc. Il a remplacé Nesta qui était blessé.
C'est lui qui a mis le rouge.
C'est lui qui a provoqué Zidane pour le rouge. Ouais, ouais, Mais ce que je veux dire.
Bien, les stats, tu les touches bien.
Ouais.
C'est ça la génération d'aujourd'hui, tu vois.
Mais
nous, on aurait dit, c'est petit, gros, avec des cheveux frisés.
Ouais, ouais.
Faut trouver le nom. Et aujourd'hui, t'as Google derrière.
Pas Google. Hein.
Non, mais je parle du Google.
C'est parce que nous, c'est vrai que maintenant, ces joueurs-là, c'est du passé. Donc, la vérité, on a du mal à s'en rappeler.
Quoi. Bien sûr.
Ouais. Et là, ce que le coach voulait te faire comprendre, Podiel, c'est que ces défenseurs-là, surtout les quand tu as parlé des Italiens, en gros, moi, je suis attaquant, je suis surveillé par un Italien. Il ne va pas me casser mon pied, non. Avec ses doigts, il va me passer derrière. Et je vais m'énerver. Et toi, tu ne le vois pas. L'arbitre ne le voit pas. Il n'y a pas de caméra comme aujourd'hui qui va faire la loupe. Regardez si avec tes doigts tu passes le joueur ou pas. Mmh. tout ça, ça n'existait pas.
Et vous le savez, ça existe. Et
les Italiens, ils sont champions du monde. Tout le match, il va te pincer pour te faire perdre tes nerfs. Voilà. Comme tu le dis,
ce sont des petits outils ça, qui sont utilisés.
Mais les Néerlandais, c'est quand les Néerlandais, ça tapait, ça cassait, c'était dur. Ils étaient durs sur l'homme parce que déjà les Hollandais, ils étaient très physiques. Et juste après la pause, on va se faire un super focus sur notre très grand champion. En l'occurrence, je suis arrivé, voilà, en l'occurrence, Riyad Mahrez, qui a fait une semaine de ouf. Là, on voit la marque, très grand joueur. Nous avons la chance de l'avoir, mais Mskine, on l'a empêché de faire du monde, mais ça. Il faut demander à qui a Ben Ayed.
Je n'ose même pas répondre.
Non, mais je reste encore.
Il n'y a pas que lui.
Je suis frustré.
Il y en a plein.
Oui,
il y en a plein comme
frustré, il faut passer à autre chose. Hein.
C'est ça.
Ouais. Ah, oui.
Il l'a dit, faut dire. Arrêtez, il faut penser à autre chose, prêtez demain.
Ah oui, parce que déjà, nous, on a tendance à vivre dans le passé. Alors,
non,
si
faut déjà l'avaler, il faut déjà avaler les choses.
Bah, oui.
Je ne fais pas gloup, il rentre comme ça.
Ah, mais moi, c'est bon, je l'ai avalé.
Tu l'as avalé, toi ?
Bah oui, je l'ai avalé. On est
sérieux ?
Bah oui, il faut passer à autre chose. Je ne vais pas vivre dans le passé.
Tu restes là.
Non, mais c'est encore
sa vie, ça.
C'est sa vie.
Oui, mais celui qui n'a pas de passé n'aura pas d'avenir. Et nous, on a un bon passé, et c'est bon, maintenant il faut se concentrer aux prochaines échéances.
Très bien, on va marquer une première pause, messieurs. On se retrouve dans un instant. On va parler de Riyad Malgredou, très grand joueur. On a la chance d'avoir un joueur en première ligue. C'est le plus grand championnat du monde de football.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
Bon, on va parler d'un crack, d'un super joueur. Quand il joue avec, il est très grand. On le voit. Il est au-dessus quand il le veut. C'est d'ailleurs, même Guardiola le reconnaît. Ce garçon, c'est quand il
quand il le veut, Mohand. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi.
Ah, bah, écoute,
un joueur, il a toujours envie.
Mais
c'est des compétiteurs, Mohand.
La différence par rapport à d'autres joueurs, faut dire non, c'est que Mahrez, même si tu le fais jouer remplaçant qui rentre 20 minutes, il va te faire les 20 minutes. C'est ça.
Mais c'est pas la même chose quand tu débutes le match et quand tu rentres à partir de la 75e minute, surtout quand le match est plié.
Ouais. Là contre Tottenham, ils étaient menés 2-0 ou pas?
Bah oui.
Bon, bah alors. Et à la fin. 4-2.
Mais pourquoi ?
Parce qu'il a humilié Loris.
Non, ça n'a rien à voir. Non, mais ça, oui. Non, mais pourquoi ? Mais pourquoi il a sorti ce match ? Parce que quand on regarde bien l'analyse du match, il nous a sorti une partie stratosphérique.
Carrément. Ah, ça, je reconnais. Ouais.
Deux passes décisives, que demander de plus.
Et puis, en fait, ce qu'il fait, pourquoi son côté, t'as vu ce qu'il fait ? Il fait ce qu'il veut.
Non, mais pourquoi ? Parce que quand tu regardes bien le match. Déjà, on a eu une Coupe du Monde, lui, il n'a pas participé, ça lui a permis de bien récupérer, d'avoir une bonne formation derrière, avec Haaland.
Tu progresses là, très bien.
Qui a planté 25 buts.
Mais Haaland, pareil, il n'a pas fait Coupe du Monde.
Oui, mais à raison de plus, c'est pour ça qu'ils sont en forme. Qui porte Manchester City depuis le début d'année? Qui? Cite-moi un joueur qui est en forme à Manchester City. De Bruyne?
Non, il a... Non.
Il a baissé d'intensité depuis le début de saison. Qui? Nous avons Riyad Mahrez et Haaland.
Oui.
Ouais. C'est les deux buteurs de l'équipe. On les avait vus aujourd'hui. Haaland, il a planté un triplé en l'espace de 14 minutes. le troisième but, Riyad Mahrez, il était face au but.
Ouais.
Il pouvait marquer facilement, sauf qu'il lui a fait une offrande pour
le hat-trick.
Ouais. Et tout ça, c'est grâce à l'envie et la confiance de Riyad Mahrez, parce que maintenant, il est confiant. Contrairement au début de saison, on avait un coach qui hésitait. Et moi, je pense que si Riyad Mahrez n'a pas pu confirmer depuis le début de saison, c'est à cause de la philosophie de son entraîneur.
Oui, il y a aussi
constamment dans le turnover. C'est, c'est pas facile.
C'est vrai. Il est dans le turnover.
C'est pas facile de sortir un match stratosphérique comme le sien et la semaine d'après de se retrouver sur le bon touche. C'est qu'il y a des questions qu'on peut
poser. Je sais que le coach m'a toujours expliqué, mais Mohand, les grands joueurs, ils reviennent à cette période pour préparer la fin de saison. Ça, là, ça.
Et n'oublions pas que Manchester City cette année, c'est la Ligue des Champions qui vise. C'est pas la première ligue.
C'est ce qui manque à Guardiola dans son palmarès. Hein. Il en fait tellement une obsession que, au moment d'arriver au bout, ben il y a quelque chose qui coince. C'est systématiquement, il coince. Alors, c'est quoi ?
Contrairement à l'année dernière, cette année, il a un bon attaquant.
Oui.
Et la donne, elle change parce que quand tu as un attaquant, un finisseur comme Haaland dans les grands rendez-vous. il peut te planter le but qui te manque. Parce que quand on regarde la finale face à Chelsea, c'est que Manchester City n'avait joué sans attaquant.
C'est ça. Il n'y avait pas ce
Il n'y avait pas d'attaquant. Il avait fait un changement de dernière minute où tout le monde se posait les bonnes questions. Comment se fait-il que Sterling a débuté cette rencontre? Ouais. Et Chelsea, pour l'unique et l'unique occasion qui s'est présentée aux Blues, bah, ils l'ont mis dedans et ils ont bien défendu derrière. Ils ont un super gardien qui a assuré.
Ouais. Ça, ça joue aussi, ouais.
Bah, oui, c'est bien sûr que ça joue.
J'aime bien le coup de fusil, j'aime bien, parce que c'est comme des histoires de, à la fin, une bande dessinée. À la fin,
ils
se sont mariés, ils eurent beaucoup d'enfants. Oui, non, mais tout ce que tu dis, c'est très intéressant. Faudilan, je vais pas relater ce que tu disais. Simplement, c'est qu'il y a des considérations. Sache qu'une saison, c'est très très long. C'est pas.
Mais en Angleterre, c'est quoi?
Mahrez, on le voit bien là, parce qu'il revient, parce qu'il était dans la cave depuis ce mois, on le voyait plus. Là, il revient parce que Guardiola, son jeu, c'est de piquer au vif les joueurs. Piquer au vif, c'est de taper dans l'orgueil.
Ouais.
Taper pour lui dire, écoute, faut que tu me montres que tu es là, sinon tu ne nous intéresses plus. C'est ça les deals qu'il y a avec l'entraîneur. Donc à un moment, Mahrez, il est là, il a les joueurs qui sont un petit peu en dessous, et il loue le petit Fadel là. On voit plus.
Fadel, ouais, c'est vrai.
Ouais, mais tu vois, donc il joue avec l'expérience qu'il a, je pense qu'il, sur les égos des joueurs, il est en train de toucher où il faut toucher. Parce que pour voir Mahrez faire ce qu'il a fait là en deux matchs, c'est que vraiment il est
et
touché.
Même contre Chelsea déjà
il a pas eu que l'intéressant
contre Chelsea
le problème c'est que tu as Haaland qui pompe tout il pompe tout. De Bruyne on n'entend plus parler, Mahrez on n'entend plus parler, on n'entend parler que de Haaland et de tous ses buts. Combien de buts il a mis aujourd'hui?
25
aujourd'hui. 25 buts, tu te rends compte, toi? 25, ça va faire du 50 ça au mois de mai.
C'est
et tu dis il pompe tout, donc c'est aussi le choix de ces clubs là de prendre ces joueurs là pour ça. Après, pour gagner la Ligue des Champions, il en faut plus. Il faut tomber sur une spirale. Il faut que tu sois sur une dynamique qui va démarrer depuis la quart de finale, quart demi-finale, où tu as une équipe qui marche sur l'eau. Et le problème de Manchester, à mes yeux, à mon humble avis, le problème, c'est que physiquement, c'est très, très dur ce qu'ils demandent. C'est très, très dur. Sur le plan de la conservation, sur le plan du pressing, ces choses sont énormes. Qui fait qu'à la fin, ils arrivent toujours cuits. Ils ne trouvent pas le remède pour qu'ils puissent avoir le petit coup de gaz qui fait la différence quand tu l'as et qui fait aussi la différence quand tu l'as pas. C'est-à-dire que ton équipe, elle arrive pas au bout. Parce que quand t'as une équipe qui recroqueville, qui défend et qui lâche pas, elle, sur une action, elle peut te marquer et après elle peut défendre. Ce qu'on fait aussi à cette période-là.
Hein. Est-ce que tu penses pas à la SARC aujourd'hui, par exemple, si pour Guardiola, la priorité, c'est la Ligue des Champions, en sachant que Arsenal est très loin devant, il caracole vraiment en tête, il va se dire, de toute façon,
pas très loin, Arsenal,
Oui. J'ai été champion l'année dernière. Bon, on remarque que c'est pas dans l'esprit anglais, mais de dire.
Non, il faut bien comprendre.
Je gère.
C'est français.
Oui.
De parler de la Ligue des Champions.
Oui.
Ils s'en battent.
Oui, on a compris.
Les Anglais, les Italiens, ils s'en tapent. Eux, les supporters, ils veulent le titre.
Ah oui.
C'est ça, le number one. Il n'y a pas à aller chercher une Ligue des Champions. Ça, c'est un gâteau en plus. Va voir l'Espagne, va voir le Real Madrid, demande à Zidane si c'est important. C'est le titre de champion qu'ils veulent. C'est celui-là qui a une reconnaissance avec les supporters, et c'est avec ça qu'ils vivent. La Ligue des Champions, c'est une denrée en plus.
L'assurer sur le gâteau.
Oui, cadeau.
Oui.
Mais ils n'en font pas des objectifs, ces clubs-là. Eux, c'est les supporters qui les font vivre.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord parce que quand on regarde les grands clubs.
Regarde, tu vas voir. Écoute les gens, tu vas voir.
Le Real Madrid.
Les supporters.
J'écoute pas les supporters.
C'est ceux qui font vivre le club.
Mais il faut regarder aussi ce que la direction souligne derrière.
Oui,
c'est que la Ligue des Champions, elle est primordiale pour certains clubs comme le Real Madrid, Manchester City.
Il n'y a que PSG qui est primordial. Et encore, ces journalistes qui inventent. Écoute les émissions de nos chers confrères. Et tu vas écouter, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Les envoyés spéciaux, les spécialistes vont te dire que c'est tout le Real et tout, rien à faire. C'est le duel avec le Barça et les supporters, ils ont besoin de gagner pour être au-dessus d'eux.
Si vraiment la Ligue des Champions était une priorité pour les Parisiens, comme tu le dis, Frodil, on est en plein championnat, pour du fric, ils sont partis en Arabie Saoudite.
Exactement ça.
C'est le Paris Saint-Germain.
Voilà, donc c'était un club pour faire du fric. C'est une machine à gagner de l'argent.
Oui, sauf que quand tu es champion dans ton pays, tu es champion dans ton pays. Mais quand tu es champion d'Europe, c'est que tu es champion en Europe.
Non, c'est la Coupe d'Europe, c'est pas champion d'Europe.
Oui, mais Europe.
Coupe d'Europe et le championnat, ça n'a rien à voir.
Non, mais
tu feras un championnat d'Europe de tous les clubs et tu feras un championnat à 20 clubs. Et là, tu feras champion d'Europe. Là, tu es en Coupe d'Europe. Tu es en Coupe d'Europe. Sur un match aller-retour, là, tu es les 8e, aller-retour, tu perds. Hop.
Parce que un championnat d'Europe, c'est la formule que vous voulez mettre en place, le Real, le Barça.
C'est ce qui va arriver.
Oui, les clubs anglais.
Ils vont le faire en Afrique.
Oui. Oui, je pense qu'ils vont le démarrer quoi l'année prochaine, non?
On va démarrer l'année prochaine, normalement.
Voilà.
En fait, il y a le CRB Blues Dead.
Qui a été retenu?
Oui, qui a été retenu normalement, oui.
C'est tout.
CRB, d'autres clubs, j'imagine peut-être la JSK, on ne sait pas.
Bah oui.
Bah, oui. Ouais. Pour l'instant, on ne sait pas et on attend.
Parce que le CRB en Afrique, pas le Marès Vierge. Il n'y a rien.
Oui. Il y a Coupe du Quartier.
Au Coupe du Quartier, ils sont champions d'Algérie l'année dernière.
Oui, non, mais qui a gagné des Coupes en Afrique? Tu as la GSK, tu as Sétif.
Tout le monde l'était. Hein.
Ah oui.
Oui.
Mais l'Afrique, tu avais la GSK, tu avais Sétif.
Sauf que pour l'instant, c'est le seul club qui fonctionne convenablement en Algérie. Voilà. Oui, faut le souligner.
Oui, ça aussi, économiquement parlant.
On va dire ça.
Non, mais oui. On va pas critiquer tout ce qui bouge, mais c'est la vérité. Hein. Parce que quand on regarde le CRB.
La crédibilité d'être champion d'Algérie, je ne sais pas ce que ça donne. Ouais.
Bah, la crédibilité, c'est d'être champion. Puisque du moment tout à l'heure que tu me disais que les clubs sont intéressés d'être champion dans leur pays, bah, champion d'Algérie également, ça compte.
Ça donne quoi en crédibilité?
Ça te permet de te qualifier en Ligue des Champions.
Voilà, très bien.
Et pour essayer de la remporter, ça veut dire tu me rejoins tout à l'heure.
Ouais, ils vont essayer encore. Voilà. Ils n'ont pas encore les épaules pour aller chercher, mais il faut aller chercher.
Ouais. Non, mais aujourd'hui,
je sais pas, cette année peut-être. Hein. C'est le CRB en tout
encore
cas.
Peut-être. Tout est peut-être. Là.
Bah oui, peut-être, le sport, c'est peut-être. Oui.
Voilà, c'est bien. Je note ce que tu dis là aujourd'hui.
Non. Peut-être. Frodil.
Oui.
Une question.
Je t'écoute.
Est-ce que le tirage au sort des phases de poule en Afrique est déjà établi ou pas? Je parle au niveau des clubs.
Ouais.
Parce que pourquoi je pose cette question? Parmi les clubs qualifiés, on retrouve souvent.
Les poules sont faites. Les poules, ils sont faites déjà.
Parce qu'il va y avoir.
T'as le We Dead avec la GSK. Petro.
Atlético Luanda, c'est ça? C'est angolais, ça? Ouais.
Ouais. Deux.
Ouais.
T'as
sûrement les clubs égyptiens et tunisiens aussi.
Mais il est tiré, ils sont tirés. Hein.
Ouais. Parce que pourquoi je pose cette question-là?
Attends, je vais te chercher.
Vous savez pourquoi je vous pose cette question?
Pourquoi?
Vous savez très bien ce qui s'est passé.
Groupe A, on a la JSK.
Oui.
Le Petro Luanda.
Oui.
Le Vita Club.
Oui.
Et le Wydad Casablanca. Ça, c'est le groupe A.
Alors donc, je m'arrête un instant ici. Il n'y a plus de relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Et est-ce que la JSK pourra aller directement au Maroc? Et est-ce que le Wydad de Casablanca pourra venir également au Bled?
Déjà, pour que la JSK ira directement au Maroc, il faut avoir un vol spécial.
Oui.
Alors que la JSK a toujours l'habitude de faire des escales en ce moment. On connaît la crise financière du club.
Donc, ça veut dire que la JSK va d'abord se déplacer.
Est-ce que la JSK a un vol spécial?
Non.
Ah oui. Ça veut dire, la JSK, à chaque fois qu'elle se déplace en Afrique, soit ils affrètent un avion, soit ils le louent. Mais ils affrètent un avion. S'il y a un avion qui a été affrété par le gouvernement, c'est gratuit. Sinon, ils le louent avec leurs propres moyens. Mais connaissant la situation financière de la JSK, ça m'étonnerait qu'ils puissent avoir un avion à leur disposition ou la direction puisse le louer, à part si Mobilis le fait. Mais ça m'étonnerait.
Et ça veut dire quoi? Dans l'histoire, ils vont. Ou alors, ils vont aller.
Ils vont faire
à Palma, puis de Palma, ils partent au Maroc.
Voilà, soit ils partent directement en Tunisie, Tunisie, ils partent au Maroc.
Avec un vol charter alors? Parce que avec
vont faire deux escales.
Avec un vol charter.
Une escale, voilà.
Ouais. Okay. Pourquoi Barça
Oui, ils peuvent le faire pas.
Casablanca, ça existe?
Oui, ça existe.
Il y a du Barça.
Avec Vueling, avec la compagnie Vueling.
Sauf que tout dépend de la cherté du vol. Eux, ils vont prendre, bien sûr, ils vont prendre la formule la moins chère. Connaissant les finances du club, ils ne vont pas se permettre le luxe d'avoir un Boeing à leur disposition.
Ça, je suis d'accord.
Mais si, tu m'as dit peut-être alors.
Oui, ça c'était.
Une de peut-être.
Peut-être d'accord. C'est pour remporter la Ligue des Champions. C'est pas pour avoir un avion.
Ouais, non, mais bon, pourquoi je pose cette question? Parce que c'est vrai que. Il y a cette histoire de déplacement. Bon, je l'ai dit, hein, maintenant, les vols directs n'existent pas entre les deux pays. La GSK, elle a l'habitude de faire des escales. Comme tu le dis, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ça veut dire qu'en retour également, l'équipe du Wydad de Casablanca doit faire la même chose. Voilà.
On verra d'ici là, en tout cas.
Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas un règlement. Mais tu sais que là. Ça pose un problème juridique. Il n'y a jamais eu un règlement au niveau mondial, que ce soit la FIFA ou la Confédération, pour les compétitions de clubs ou les compétitions nationales par rapport à des problèmes politiques entre deux pays. Si jamais un pays, par exemple, qui n'a pas de relation avec un autre pays par rapport à ses joueurs. Là, c'est bien, ça pose un cadre de jurisprudence pour tout le monde. Et puis, moi, je pense qu'il arrivera un moment où les instances du football vont mettre en place une réglementation. Voilà, aujourd'hui, on arrive à cette situation où, par exemple, on ne sait pas. Bon, il y a eu l'histoire du Chan. Ça, c'est une compétition, on va dire, de pays, de championnats locaux. Mais là, après, on va rentrer dans la phase de la Ligue des Champions. C'est aussi une compétition qui appartient à qui ? Ben, à la Confédération africaine de football. Mmh. Et là, pour l'instant, les instances de la Confédération n'ont pas du tout communiqué. Et est-ce que sur le groupe Fodil, ils ont donné les premières dates ou bien...
Non, pas encore. Nous n'avons pas encore les dates. En revanche, dans le groupe B, nous avons Al-Hilal, Hilal, Coton Sport et Sud-Ouai. Je ne connais pas l'équipe.
Ouais, donc là, ça pose...
Et le groupe C, nous avons Onoya, Raja Casablanca.
Ah non, c'est pas Onoya, c'est Oroya de Conakry.
Oroya, ouais. Voilà, Oroya. Ouais. On a Raja Casablanca, Simba Sport et Viper Sport. Et pour le groupe D, nous avons le Merih, CRB Belouizdad, le Est Tunis et le Zamalek. Groupe de la mort.
D'accord, ok. Bon, donc là.
C'est pour ça qu'ils veulent acheter. Ils veulent acheter. Je ne sais plus quel jour, là. Jour immigré, là. Ah! Il était dessus, là.
Oui, 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 ça y est.
Ah, de quel club ?
La GSK ? CRB. Ah,
CRB ?
Parce que, Nasser, il rigole, parce que Fodil m'avait parlé d'un éventuel retour de Lies Chetti à la GSK. Je lui ai dit que ce serait un échec flagrant.
Une éventuelle arrivée de Fares Belouli à la GSK, c'est ce qu'on a entendu récemment.
C'est qui ça ?
Fares Belouli, il a été formé à l'Olympique Lyonnais ensuite, avant de partir à l'AS Monaco.
À Lille aussi, il me semble.
Voilà, exactement. Ensuite, maintenant, il joue en Ukraine.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est
je rigole. Ah, je pleure de rire. Non, moi, je parle du vrai recrue au CRB. Hein. C'est un vrai joueur. Hein.
C'est qui ?
Je sais plus le nom.
Et c'est l'immigration ?
Bon. Bah oui, clair.
D'accord. Bah, écoute, je laisse Fodil chercher le temps pour moi. Nasser. Tout simplement, on s'est un petit peu mélangé dans cette partie parce qu'on était parti sur Riyad Mahrez. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ben, les très très grands joueurs, ben, tu ne les as pas comme ça. On voit, on parle des championnats, on parle des compétitions, on parle de finances, etc. Et tout, mais on s'aperçoit que les très grands joueurs, ben, ils ne sont pas si nombreux que ça.
C'est pour ça qu'ils sont payés aussi cher. T'as qui ? T'as quoi ? Une dizaine, en tout cas. C'est
ce fameux joueur qui te fait la différence.
Il y en a par pays. Chacun,
d'accord.
Au moins, il le protège. Mais en gros, normalement, logiquement, dans Méa, quand c'est deux, ça crée problème, ça crée la pression. T'as vu, on essaie entre de monter l'histoire de Ronaldo avec Messi, un truc rien à voir. Mais bon, c'est pour expliquer. Dès qu'il y a opposition, confrontation, les médias se mettent au milieu, c'est bon. Non, il n'y a pas. Nous, on a Riyad, parce qu'on sait que Riyad a un vrai parcours avec l'équipe d'Algérie.
Ouais,
hein,
ouais,
il a un vrai parcours. Ouais. Il a une vraie expérience de l'Afrique. Il connaît.
Champion d'Afrique.
Ouais. Il a été champion d'Afrique. Mais au-delà de ça, tu as vu, complications de la vie tous les jours se sont venues s'entremêler avec le football et ça a créé des buzz et des moments.
C'est vrai.
Ouais. Les grands joueurs. Parce que quand tu veux nommer des grands joueurs, les grands joueurs, on doit les voir dans les grands moments. Hein. Et lors du match contre le Cameroun, match retour surtout.
Oui, oui.
Je sais pas s'il l'avait intégré, Riyad, mais c'est des matchs qu'il fallait être là, quoi. Vraiment. Ouais. Vraiment être là. Et là, il n'a pas été comme il aurait dû l'être. Voilà, je dis ça. Et je pense qu'il a, il a morflé derrière, là. Depuis novembre,
C'est vrai. C'est juste après, oui. Il a carrément été dans l'ombre.
Et là, il revient sur ce qu'on a vu, là.
Oui.
C'est intéressant. Mais bon, par rapport à son parcours de Riyad, ça c'était bien quand il était à Leicester.
Oui.
On connaissait. Mais maintenant qu'il est à City, il a le plus grand club du monde, il joue avec les plus grands joueurs, ah, il doit être à un certain niveau de compétence, un certain niveau de jeu qu'on ne peut plus accepter, nous, qu'il soit en dessous. Parce que tout de suite, on va dire, ah, il n'est pas bon. Non. Riyad termine tranquillement sa carrière. Il vise juste à savoir, est-ce qu'il va continuer avec l'équipe d'Algérie pour la Coupe du Monde ?
Oui.
Parce qu'on en est déjà au barrage, déjà, on a pensé ça. J'espère, moi j'espère vivement.
Ben, j'espère parce qu'il y a des joueurs qui regardent Ronaldo et Messi par rapport à leur âge. C'est parce que si l'équipe va en Coupe du Monde de 2026, j'aimerais bien que Riyad, s'il garde la forme comme Karim Benzema à son âge, Je pense qu'il ne la fera. On marque une pause et on se retrouve juste après.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Alors, il y a un mot ou une phrase que j'aime bien chez nous. C'est. Et d'ailleurs, c'est Didier Drogba qui nous l'avait laissé à une époque. Je l'ai rencontré, c'était au cours d'un match Côte d'Ivoire-Guinée. Il disait, mais vous les Algériens, vous aimez vivre de votre passé. Vous ne regardez pas devant. Pourquoi j'utilise cette phrase ? Ben, c'est par rapport à la JSK. La JSK, oui, c'était la grande JSK. Avec.
J'aime bien le terme que tu utilises, c'était.
Oui, oui, c'est, oui, j'utilise l'imparfait, oui, c'était. Ouais. À une époque. Mahedine Khalef. Stéphane Zivotko qui ont fait le boulot, c'est Stéphane qui a fait tout le boulot. Il y a eu aussi des entraîneurs qui sont venus à l'image de Nasser qui est ici. Il y a eu la GSK a connu plusieurs entraîneurs. Bon, il est vrai que Ferhamal Bemouah Chérif il a consommé, je sais pas combien d'entraîneurs qu'il a consommé durant son règne du président.
500.
Sauf que la fin justifie le moyen, oui. La remportée des titres.
Oui, c'est
et
ça.
C'est les titres qui restent dans l'histoire.
En fait, s'il y a quelqu'un qui maîtrise le terrain africain, bah, c'était lui. Je veux dire qu'en Afrique, qu'on le veuille ou non, mais moi, Chérif, tu ne peux pas l'avoir. Dans ce domaine, il était très fort, très costaud. Mais, ça, c'est.
Sauf qu'on s'est fait avoir quand l'ATP Mozambique était venu en Algérie.
Oui.
Et elle était venue une semaine avant la. Quatre jours avant la finale. Ouais. Et on ne savait même pas comment ils étaient venus.
Ouais.
Ça, il s'est fait vraiment avoir.
Ouais. Là, c'est le mot, c'était la JSK. Mais après, aujourd'hui, dites-moi, mes amis, est-ce qu'il n'y a pas péril en le demeure ? Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une descente en deuxième division ? Ce serait la première fois depuis que le club est monté en première division. Est-ce que, puisque Nasser était en Algérie il y a quelques semaines, comme ancien entraîneur, il est parti à Tizi, forcément il a vu l'équipe, il a vu les joueurs. Lui-même, quand il est revenu, il était un petit peu choqué, il a vu des gamins. Il n'a pas vu, il a plutôt vu des joueurs pour leur âge assez frêles. Pas les générations des Dilewesh, Zafour, Aziz Ben Hamlat, etc. Et tout. C'était pas ça. Farouk Belkaïd, et j'en passe. Il y avait quand même une très belle génération. Alors, coach, toi, tu as vu, est-ce que tu es inquiet par rapport à ce que tu as vu sur place ? Déjà qu'au niveau du championnat, c'est très bas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que le club se retrouve dans la charrette de la relégation ?
Comme dirait l'autre.
D'ailleurs, je demande à Fodil de me sortir le classement. Actuel avec le nombre de journées.
Bah, il est en train de. Il refait toute l'histoire de la JSK.
Non, mais t'inquiète, je connais pas. Khali
Google, il te donne tout là.
Ouais. Khali Google, ouais.
C'est ça.
En 15 matchs,
oui.
12 petits points.
Ouais. Même pour la JSK. Même pas un point par match. Ok, d'accord. Et quelle position par.
15e au classement.
Sur combien ?
Sur 16 équipes.
Donc ça veut dire position relégable. Ah oui.
Deuxième relégable.
Deuxième relégable. Puisqu'il y a trois. Il y a trois équipes qui vont être reléguées.
Peu, elles ne vont pas descendre.
Non, mais je sais qu'elles ne vont pas descendre. C'est clair.
J'aime bien tout le monde. Oui, je sais qu'elles ne vont pas descendre. Oui, je sais de quoi vous voulez parler.
Okay, oui, bon. Mais bon, on fait une émission live JSK.
Oui.
Après, si tout le monde donne son avis, tout le monde donne un avis qui est là. Comment tu peux expliquer que tu es l'un des plus grands clubs en Afrique et que tu as un sponsor qui vient sur la pointe des pieds en 2023 ? Quand on voit que tout le monde a eu ces grandes entreprises qui sont venues s'installer, que ce soit le CRB, que ce soit Constantine, que ce soit le Mouloudia,
l'USMA,
tous ces clubs-là, compris il y a quelques années. Hein. Comment se fait-il, on va poser les questions, comment se fait-il que ça arrive peut-être, et Faudil m'a dit qu'il n'aurait pas signé, soi-disant, mais que c'est toujours comme ça, la boîte, la nébuleuse, elle est là. Là, quand on voit réellement des choses officielles, on peut dire que c'est pas jouable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'instabilité qu'a créée Omar Sharif, elle est de sa faute. parce que la continuité n'a jamais pu se mettre en place, parce que l'instabilité lui sert beaucoup, soit aussi bien lui que les joueurs, aussi bien les entraîneurs que les joueurs. C'est pour ça que tu n'as pas un entraîneur qui a fait 2 ans. Là, je dis simplement 2 années dans le championnat, il n'y en a aucun. Aucun mec qui a fait 2 ans. Ça tourne entre 6 mois, 3 mois, je ne sais pas quoi, soit 1 an. Ils ont disparu tous à chaque fois. Donc ça, ça sert les finances du club, parce que avec le temps aidant, l'État, toujours l'État, n'est plus là. Et l'État ne veut plus, elle veut pas d'économie libérale, parce que voilà, pour X raison, oui. Mais elle veut pas être aussi la vache laitière de tout le football. Mais le problème, c'est que c'est vital, le football en Algérie est vital. Vital.
Ouais, ça c'est un...
C'est vital.
Ouais, oui.
C'est pas, il n'y a pas à discuter. Donc, on par ponction, on donne. Quand il y a urgence en la demeure, on attend de voir le niveau d'urgence et on donne un petit peu. Bref. Ça ne tient pas sur la durée. Ça fait des années qu'on le voit. T'as une formation qui n'existe pas en Algérie, du tout. Maintenant, ça commence un petit peu. J'ai vu un peu les académies qui se mettent en place. J'ai vu un petit peu. Là, je t'ai envoyé le truc de parade de Pérume. Hein,
oui.
Tu l'as vu ?
Ouais.
Le centre de. Voilà. Quand tu regardes le centre de parade, tout le monde croit que c'est. Mais c'est rien du tout. C'est pas des moyens, c'est pas une structure que tu tiens, c'est une structure top niveau. Non, c'est petit niveau, tu vois. Comme un club qu'on a chez nous, qui aurait, voilà, un petit truc médical, un petit terrain, vestiaire, un petit hammam, ça ne suffit pas, ça. C'est plus ça aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde-là. Bref. Donc, quand tu cumules un peu et tu te dis, on fait comment maintenant? T'as pas de formation qui sort de chez toi? T'as pas un réseau de manager top niveau qui t'amène des vrais
joueurs.
C'est surtout ça. Il n'y a pas de réseau. T'as des gens, dirigeants qui viennent, on ne sait pas d'où. On les connaissait pas il y a quelques temps. Ils apparaissent du jour au lendemain avec des noms incroyables. On va prendre le cas de Monsieur Millel, que je n'ai jamais connu de ma vie, moi, dans tous les domaines. Il peut venir d'un autre domaine. Il peut venir de l'entreprise, du monde scientifique, du monde du barreau, des avocats, du juridique, et qui viennent prendre le club de président. Avec une... Je dis, ok, là, oui.
Oui.
Là, c'est un homme qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il fait. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, et tu demandes, toi, aux entraîneurs d'avoir des CV pour expliquer ce que tu dois faire. Bref, au-delà de ça, c'est-à-dire que toute cette instabilité qui menait depuis des années, allait à l'encontre. La seule chose qui a bloqué un peu tout ça, c'est la construction du stade. Il a mis 23 ans. 23 ans pour arriver le stade. T'imagines-toi, quand tous les stades en Europe se font entre 12 et 18 mois.
Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Bon, pour... pardon. Oui, pour finir cette première heure d'émission, je reviens rapidement quand même. Juste votre pronostic. Inquiet ou pas inquiet pour la GSK? Et surtout le niveau de l'équipe au-delà.
Non, c'est pas le niveau de l'équipe qui m'inquiète, c'est la gestion du club qui m'inquiète. Ouais. Parce que quand tu as des gens qui savent pas gérer un club comme la GSK, il faut se poser les bonnes questions. Parce que pour sauver le club, il faut avoir des gens qui ont les compétences, il faut avoir des gens qui savent gérer un groupe.
Mais moi, je me pose des questions sur. Parce que dans cette émission, on l'a souvent fait avec coach. Ce qu'on appelle des émissions cultes, notamment sur la formation. Est-ce que les dirigeants sortent d'une grande école d'ingénieurs, d'une école de commerce, ou du banc? Non. Généralement, il n'y a rien. On arrive, on fait ça comme on veut, comme à la maison. Mais non, un club, c'est une entreprise. Tu as des joueurs, tu as des salariés, etc.
Mais, il faut gérer comme non, mais oui, mais sauf que nous, on gère vraiment juste entreprise première. On gère pas les sous-catégories. Ça veut dire les équipes.
Oui.
Benjamin, Minim, Cadet et consorts, on les regarde même pas.
Pas du tout.
Et c'est ça. C'est pour ça qu'on sape notre formation et que derrière, on est obligé d'aller chercher des joueurs X ou Y qu'on connaît, qui émergent et qui sont gérés par des agents qui demandent des millions, mais il y a des directions juste derrière qui font signer ces joueurs alors qu'ils ne les voient même pas. Et raison de plus, on s'est fait avoir... Je vais juste te citer l'exemple de la GSK. La GSK s'est fait avoir avec plusieurs joueurs africains qu'ils ont recrutés, qu'on prétendait être les remplaçants des bossés, Dieu son âme, et qu'à la fin, ils n'ont même pas confirmé, ils n'ont même pas planté un but.
Ouais. Ça, c'est souvent arrivé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit de moins en moins... la présence de joueurs africains dans notre championnat. Est-ce dû à un problème financier ou tout simplement aujourd'hui en termes de recrutement ça y est.
C'est en termes de gestion avant toute chose.
On ne sait plus recruter.
Qui recrute à la GSK? C'est ça la question. Voilà. Quand on regarde les clubs européens ou les clubs
d'un. Le seul, voilà. oui.
C'est qu'il y a une cellule de recrutement qui est juste derrière, qui fait un excellent travail, qui cible les joueurs. Sauf que nous, non. On attend des joueurs qui nous proposent des joueurs X, Y, qui viennent de nulle part, on ne sait même pas d'où, ou qui sont à l'arrêt depuis des années, et que, voilà, ils arrivent en Algérie, ils signent des contrats. Et moi, ce qui me fait vraiment mal, c'est que quand on voit des joueurs algériens qui confirment et qui commencent à émerger, qui demandent des salaires, on dit oui, ouais, mais il est en train de faire de la surenchère. Et quand il s'agit d'un joueur qui vient de l'Europe ou qui vient d'un autre pays, on met le prix nécessaire sur la table. Ouais. Et c'est ce qui fait mal.
Ah oui, c'est vrai.
J'aime bien ce qu'il
dit. Non, mais il n'a pas tort.
Non, mais il est convaincu de ce qu'il dit. C'est ça qui est marrant.
La gestion,
c'est compliqué au niveau en Afrique ou en Europe ou dans le monde. C'est compliqué, mon ami.
Il n'y a même pas deux semaines, tu disais. Il n'y a même pas deux semaines, tu disais qu'il n'y avait même pas de haut niveau en Algérie.
Bon, le droit de réponse, faut dire.
Voilà, je dis, tu confirmes. Mmh. Ce que je pense de toi, c'est-à-dire qu'à un moment tu crois que les choses, c'est juste une histoire de dire des mots, voilà, c'est le recrutement, il faut ça et ça, des joueurs bons qu'on ramène et qu'on va prendre et c'est cher. Non, c'est pas comme ça.
C'est comment
c'est pas Algérie. Mais non, mais tu connais pas.
Ah, mais vas-y, explique.
Eh ben oui, je vais pas t'expliquer, mon coco, j'ai pas le temps de t'expliquer, déjà adulte. Et deux, sache que je vais te donner des petites choses pour que tu réfléchisses. Réfléchis à ce qu'est un club de haut niveau.
Oui,
donc cible-le, mon coco. Et pas besoin de mettre des petits noms pour dire des grandes choses. C'est très compliqué. C'est pas à ton niveau. Ce sont des gens, c'est une maîtrise qui a.
Et ces gens-là, ils sont.
Écoute, laisse-moi terminer. C'est une maîtrise qui est au-dessus. Je vais te mettre un peu dans les nuages. Qui sont au-dessus et qui gèrent tout ça. Ils gèrent comment, tu sais pas.
Qui sont ces gens-là?
Ils te font intervenir. Écoute, vas-y, parle.
Non, mais vas-y, je t'ai posé des questions.
Tu ne coupes pas comme un journaliste qui coupe la personne pour lui casser son idée. Non, je vais t'expliquer ce qu'est le haut niveau. Je vais pas comparer l'Europe, moi, avec ce qu'ils font, avec l'Afrique quand même. Je suis pas un fou. Je vais t'expliquer que pourquoi nous, tu dis sport de haut niveau, football professionnel, ça n'existe pas du tout. C'est des mots qui sont pipeaux. C'est des gens qui sont pipeaux. Il y a tout un amoncellement de personnes. Je sais pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Eh ben, ils sont dedans. Et d'autre côté, ils vendent ça à la presse en leur faisant croire. C'est du haut niveau. C'est du pipeau. C'est du charclin, là. C'est c'est tout, mais sauf du football. Tout sauf du football. Sauf quand tu parlais tout à l'heure, tu parlais des cités des grands noms. Pour t'expliquer, quand l'Algérie a voulu faire, quand elle avait les moyens de faire, elle l'a fait. Elle a fait plus que tu peux imaginer. Ouais. Elle était à la pointe de tout ça.
Ah, je me souviens.
Et quand ils sont partis, ils ont laissé ce qui se passe là actuellement. Ouais. Voilà, tu prends des noms, comme tu cites depuis tout à l'heure, des personnes qui viennent. Ils viennent
j'ai
au nom de quoi
personne.
Non, mais ils viennent au nom de quoi, ces gens-là? C'est quoi leur titre de référence pour que tu viennes dans une entreprise, dans le milieu de football, pour faire du haut niveau? Explique-moi, c'est quoi ta. D'où tu viens? Tu me sors quoi? Une phrase à la radio ou à la télé, je viens, j'ai dit, moi j'amène 50 milliards, 200 milliards, tu connais même pas d'où ça vient, et à la fin, il n'y a pas. Le mec, il est gesticulé, il est manipulé, il le fusille à la fin, normal, parce que c'est le prix à payer, et à la fin, les gens disent, ah, t'as vu, il n'y a plus d'argent. Mais il n'y aura pas d'argent, pourquoi veux-tu qu'il y ait de l'argent? Pourquoi tu vas payer des amateurs? Sérieusement, ils ont des contrats, qu'ils arrivent un peu tant en ballant à le faire passer, mais il n'y a pas, parce que ton niveau de compétence n'est pas requis.
C'est
parce
ce que
le problème, c'est que t'as des médias interposés, t'as des matchs à la télé, t'as des supporters qui regardent les matchs, ils regardent du Real, ils regardent du Liverpool, ils regardent du Manchester, ils regardent après son équipe, ils disent, oh, il y a un problème là ou quoi là?
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait avoir des personnes qui savent gérer.
Voilà, d'où
voilà, ça veut dire
c'est bien, en train de comme ça, on arrive.
Mon idée.
Voilà, on arrive à la fin de cette première heure. Mais merci, c'est bien. Moi, j'adore. Je vous laisse tous les deux animer le débat.
Non, mais faut dire, il est bébé, donc on essaie de le driver, mais c'est long, c'est long, c'est long à lui faire passer les messages.
Non, t'inquiète, il prend de la bouteille doucement, doucement.
Je regarde la barre comme un pouce.
Comment
ça, faut dire.
Allez, on va avoir une pause et puis on va parler du Hogar Bike, le Hogar Bike. Voilà. Et puis, ce sera là avec Michel Bizot de l'organisation. Toufir, malheureusement, s'est absenté. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants.
18h, 20h, Fou de Sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bon, dites-moi, mes amis, est-ce que le désert vous fait rêver? Ben oui.
Ah, ben comment je rêve?
Est-ce que tu rêves de le faire en vélo?
Un vélo, c'est compliqué dans le sable, là. De faire un marchand déjà rapide, c'était énorme.
Il n'a plus l'âge pour le vélo. Ah, c'est
ça, ouais. Surtout toi. Bon, que tu parles de moi, ou éventuellement le coach, oh, j'accepte. Mais toi, en faut dire, c'est la nouvelle génération, t'arrives là sur le terrain.
On ne sait jamais, peut-être
que je le ferai. Donc tu vas le faire un 100 km en vélo dans le désert.
Ah ouais.
On lance à Paris.
Mohamed, on sera dans la voiture relais voilà. Avec les bouteilles d'eau. On te regarde.
Ben oui.
On peut parier. Hein.
Non, mais c'est possible, ça.
Oui, bien sûr, puisque là, il aura lieu au mois de février. Ça s'appelle le Hogar Bike.
Ouais.
Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai eu un message de notre ami Foudel, mais Toufiq Bourali, qui est reparti en urgence là sur Alger. Et je lui ai dit, écoute, mon cher Toufiq, il n'y a pas de souci. Il y a aussi celui qui co-organise cet événement, qui est à Aix-en-Provence, c'est Michel Pizot, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici sur l'antenne de Beurre FM. Alors, Aix-Marseille, on est sur le 92.6. Bonsoir Michel.
Bonsoir Mourad, bonsoir tout le monde.
Bienvenue sur Beurre FM. Alors donc, comme tu le vois, c'est l'année 2023 qui va démarrer sur les chapeaux de roue. Avec cet événement qui s'appelle le Hogar Bike, est-ce que tu peux nous toucher quelques petits mots ?
Bien sûr. Je voudrais surtout dire à tes invités que s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus.
Ah.
Et malgré le fait que sur le parcours, il y a des montées et des descentes à environ 18%, ce qui fait que ça... Mais c'est pas très long.
Ouais.
C'est pas très long. Mais ils peuvent venir, c'est ouvert de 7 ans à 77 ans. Et les pistes sont assez simples et on ne roule pas sur le sable, enfin très peu sur le sable.
D'accord.
Bonsoir Michel.
Vous respirez. Oui, oui.
Bonsoir Michel, on arrive. Je prends le coach avec moi et on arrive tout de suite.
Non problème. Arrive, le vélo est là et.
Non, le vélo, ça sera pour coach, hein, ça sera pas pour moi.
D'accord. Dommage, il me fallait ta taille. Et avec ta taille, le vélo approprié, tout est déjà sur place. Il n'y a qu'à arriver, sortir de l'avion, monter sur le vélo et aller se faire plaisir dans les paysages du Hogar et des Tassili. C'est absolument somptueux.
Et ça sera pour quand?
Du 11 au 19 mars.
Février.
Février, pardon.
Au mois de mars, c'est le Raid des Rennes.
C'est le Raid des Rennes. C'est un autre événement que nous organisons.
Ouais.
On va peut-être pouvoir en dire deux mots.
D'accord, mais d'abord, alors sur ce Hogar Bike, déjà le mot bike, ça veut dire derrière il y a un vélo, c'est quoi? C'est des vélos électriques?
VTT.
Oui.
Non.
C'est des VTT.
Voilà, du moins pour cette année, oui. Pas de vélo électrique. Nous avons environ 50 inscrits, ce qui est très bien pour une première édition.
Ah, quand même, oui.
Ça va nous permettre également de pouvoir régler, nous, l'organisation.
Oui.
Beaucoup de nationaux, beaucoup d'Algériens qui sont inscrits pour venir découvrir le Sud, surtout, et la ville de Tamanrasset et la région de la Sécrème.
Mm-hmm.
Je rappelle que la Sécrème, c'est une montagne, c'est un sommet qui culmine à 2400 mètres, avec la possibilité de monter encore plus haut, mais à pied. Et tout ça en vélo sur un circuit qui va faire un peu moins de 300 km, en 5 étapes.
D'accord.
En bivouac, bien évidemment. Et vous êtes pris en charge pour les participants au départ d'Alger pour Tamanrasset et Tamanrasset-Alger, aller-retour. Et bien évidemment, sur place, les hébergements, la nourriture, tout est pris sur place.
Et déjà, vous, comme tu l'as dit, Michel, vous êtes arrivé à 50 inscrits.
Voilà.
Ouais.
On a estimé que 50 inscrits, c'était bien parce que c'est une première édition. C'est un parcours qui est spectaculaire, surtout pour les paysages. Vous avez l'impression d'être sur la planète Mars, hein, parce que c'est très minéral. C'est une région, la région de la Sécrème est une région très volcanique. Et nous allons d'ailleurs, nous plongeons à l'intérieur des cratères pour en ressortir. Mais je vous assure, il y a longtemps qu'ils sont éteints, environ.
Oui.
Donc ça ne risque rien. Vous allez découvrir des sources, toutes sortes de pistes. Il y a de la piste sur du sable, il y a de la piste sur du caillou, sur du rocher, sur de la piste damée. Enfin, il y a de tout. Et c'est surtout un événement unique. D'abord, c'est unique en Algérie, et les paysages sont vraiment uniques au monde. C'est les plus beaux, hein. C'est les paysages du Sahara, du Tassili, du Hogar, et ça, c'est sublime.
Et pour combien de places ?
Alors, on n'a pas encore, pour le moment, 50 personnes sont inscrites. Donc, vraiment, avec, si vous venez de la part de Beurre FM, on peut encore vous prendre, mais ça sera rare. Cela dit, entre 120 et 150 personnes l'année prochaine.
D'accord. En fait, il faut toujours faire un test lors d'une première édition. Ensuite, évaluer, faire le bilan, corriger d'éventuels petits défauts. C'est le principe même d'une première édition, quelle que soit la nature de l'événement, Michel.
Bien sûr, c'est surtout notre boulot à nous, organisation, de veiller à tout ce qui se passe et que ça se passe bien. Alors, il y aura 5 étapes. Tous les 10 km, il y a un poste de ravitaillement. Et vous pouvez trouver de l'eau, des fruits secs, des fruits frais. Donc ça, tous les 10 km. Le soir, un bivouac où on va vous faire goûter les spécialités du secteur, enfin de la région, avec suffisamment de temps pour se reposer. Et le lendemain, départ à nouveau. Le deuxième jour sera un jour un peu ardu, parce que c'est le jour où nous allons monter à la Sécrem. Donc c'est des montées pour les spécialistes environ. Nous avons 1400 mètres de dénivelé positif sur 40 km. Les étapes font une quarantaine de kilomètres de long. Alors, j'entends ici des spécialistes qui vont commencer à dire « Ah, 40, c'est pas suffisant, moi je fais 100 bornes tous les jours ». Non. Quand vous verrez, ou plutôt venez voir sur place, et vous verrez que 40 km, c'est vraiment... Vous allez vraiment vous faire plaisir.
Ouais. Alors justement, il y a Faudil qui a besoin de poser, Michel, des questions, notamment sur la délivrance des visas. Vas-y, Faudil. Oui.
Concernant la délivrance des visas, ça se passe comment ? Est-ce que la procédure, on l'a fait en France ? Ou bien parce que bon, récemment, j'avais vu un article sur APS comme quoi on peut avoir le visa directement quand on arrive au Sahara.
C'est exact. Alors, la nouvelle procédure de visa qui est en cours de mise en place, c'est vous prenez l'avion avec une lettre d'invitation de la part de EMSBA Tour qui nous délivre les autorisations.
D'accord.
Avec bien évidemment un passeport valable 6 mois après votre retour en France, c'est-à-dire 6 mois après le 19 mars. Et le visa d'entrée en Algérie avec le nombre de jours vous est donné à l'arrivée, soit à Tamanrasset, si vous faites un vol direct Paris-Tamanrasset, puisque maintenant ça existe,
oui.
Soit Marseille-Alger, si vous faites un Marseille-Alger.
D'accord.
Voilà. Alors, normalement, parce que nous attendons des précisions, et Toufik est rentré en Algérie pour ça, pour avoir ce type d'autorisation.
Où est-ce qu'il va vraiment vous faire... ce qui va vous faciliter le travail, Michel ?
Ah, énormément. Disons que d'un côté, il y a les autorités qui nous disent « Amenez-vous beaucoup de monde, et surtout des touristes dans le sud, c'est ce qu'on va faire. » Mais d'un autre côté, on demande d'alléger un peu les procédures, parce que systématiquement, avec l'ancienne procédure, aller au consulat, avec les photos, le dossier, prendre un premier rendez-vous, puis un deuxième rendez-vous pour récupérer le passeport 15 jours après, etc., c'était trop long.
D'accord.
Et j'avoue que ça rebutait beaucoup de personnes. Et là, vraiment, on est heureux parce que tout ça vient d'être facilité.
Voilà au moins une très bonne nouvelle, c'est vrai. Tout le monde l'attendait. Et je sais que là, je l'ai lu récemment, effectivement, que... l'État algérien a décidé de créer ce qu'on appelle un visa réservé justement
un visa tourisme.
De tourisme pour une durée bien précise. Là, en plus, c'est principalement sur la promotion de la région du Sahara. Voilà.
Oui, pour tout le sud Sahara. Bien évidemment, si vous avez la double nationalité, le problème ne se pose pas.
Et autre petite question, si par exemple nous avons un visa pour le Sahara algérien, est-ce que un touriste peut y aller visiter Alger ou d'autres villes ?
Alors, dans l'état actuel des choses, non, parce que le visa est délivré pour une durée de temps. Là, par exemple, c'est du 11 au 19. Mmh. Eh bien, normalement, vous êtes tenu de prendre l'avion le 19 pour rentrer. Maintenant, en faisant une demande auprès de l'agence réceptive, à l'occurrence EMSA Tour, qui, lui, peut, à ce moment-là, vous préparer un circuit et vous demandez un visa en fonction du circuit qu'aurait proposé l'agence de voyage.
Voilà.
C'est à l'agence de voyage de s'occuper des formalités pour la demande de visa ou c'est à l'intéressé ?
Vous devez fournir les coordonnées du passeport et les coordonnées administratives à l'agence de voyage qui va vous délivrer une lettre d'invitation avec les dates dessus et exactement ce que vous allez faire. Et l'agence de voyage crée une liste qu'elle va soumettre au ministère des Affaires étrangères qui va donner l'autorisation ou les instructions au poste de police d'entrée sur le territoire algérien, de façon à vous délivrer un visa pour la durée de votre séjour.
Voilà, de toute façon, c'est une procédure normale, c'est-à-dire que de plus en plus, même dans le cadre du tourisme dans d'autres pays du monde, on délivre des visas carrément sur place. C'est-à-dire quand tu arrives, tu passes dans un service des douanes, on te donne le visa pour ton séjour, puis après, tu rentres à la fin, justement, de ce visa. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Coach.
Pardonne-moi, Mourad, oui. Mais je dirais une excellente nouvelle.
Oui.
Parce que ça va vraiment nous faciliter la vie. Et avec l'ancienne procédure, si tu n'avais pas de consulat ou de représentant de consulat dans ta ville,
oui,
quelquefois, il fallait faire 30, 40 ou 50 kilomètres pour aller au consulat général.
Voilà.
Et ça, c'est vraiment très bien.
Oui, alors, Nasser ou Fodil ?
Oui. Moi, je suis surpris agréablement d'entendre notre interlocuteur de nous parler un petit peu des raids qui se mettent en place aujourd'hui dans le désert. Et on voit que ça pullule un peu partout, hein, dans beaucoup de... On sent quand même qu'il y a une volonté politique aujourd'hui que voilà, l'Algérie doit s'ouvrir, et elle va commencer par s'ouvrir par le désert. Moi, je connais parce que j'y étais plusieurs fois, j'étais sur Tarit, et j'ai fait...
Et tu aimes bien
Non, mais c'était que le début, que le début. Il y a Djamet,
Tu sais, Fodil, il y a un seul danger avec
c'est
le désert.
C'est c'est pas Fodil.
C'est de toujours avoir envie d'y retourner.
C'est ça, voilà. Tout à fait.
Le désert, c'est de l'amour, hein.
C'est exactement
surtout
ça.
Surtout le Sahara, et surtout le Sahara dans sa partie algérienne, parce que c'est là où il est le plus important, et c'est là où il est le plus beau. Du côté de Tarit, tu as les plus hautes dunes du monde.
C'est l'un des plus beaux Sahara du monde.
Ah oui.
C'est ce qu'on
dit. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un Sahara, c'est le plus beau.
C'est un raid ou c'est un... Comment on appelle ça ? C'est un sableux ?
On va faire la différence entre le raid et le rallye.
Voilà.
Ce sont deux choses différentes. Maintenant, on qualifie de rallye à peu près tout ce qui se promène dans le désert. Non, rallye, c'est la vitesse. Une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Le raid, c'est une balade. On va venir pour voir le paysage, pour aller dans la Tavra, pour aller à Djanet, pour aller voir le sable, voir les dunes. Il n'y a pas de notion de vitesse. Et là, on va être amené peut-être à parler du rallye des Rennes, où justement, il n'y a pas de notion de vitesse. C'est entre Djanet et Tamanrasset. C'est dans le sable. Ça fait 700 à 800 km de long. C'est réservé aux féminines.
Le raid des Rennes, c'est 100% équipage féminin. Donc, il faut dire, voilà, à moins d'être caméraman, tu n'as pas le droit d'y aller.
Voilà.
Vous n'avez pas besoin d'un agent de sécurité ?
On a besoin de guide. Non, c'est ce qu'on appelle un raid.
Oui, c'est vrai.
Et le rallye, mais à l'heure actuelle, il n'y a rien en Algérie. Contrairement aux autres pays du Maghreb ou qui sont surchargés en matière de raid et de rallye, en Algérie, tout est à faire, tout est à créer.
À condition
de ne pas polluer, hein, comme dans certains pays où la pollution aujourd'hui elle a pris le dessus sur le respect de l'environnement, quoi. Voilà.
Exactement. Et d'ailleurs, à ce sujet, je trouve que l'administration, je dirais pas nous surveille, mais nous parlons énormément avec l'administration. Nous ne pouvons rien faire sans autorisation. Et l'administration a vraiment à cœur de respecter les normes de pollution.
Oui.
Et il est hors de question de venir avec des voitures qui fument, qui soient toutes rouillées ou qui soient à l'état d'épave, etc. Non. Sinon, on ne pourra pas continuer.
Bien sûr.
Et ça, vraiment, l'administration et en particulier les autorités du côté de Tamanrasset, etc., sont très à cheval là-dessus. C'est une des raisons qui font que le regard bike se fait en VTT. En VTT.
Il n'y a pas de pollution en VTT, bien sûr.
Il n'y a pas de pollution en VTT. Nous avons réduit au minimum les véhicules d'assistance. Mais bien évidemment, il faut quand même qu'il y ait un médecin qui suive.
Heureusement, il oui, faut... dans le Sahara, oui.
Voilà, et on en aura même deux. Il faut toujours pouvoir avoir assez de place pour éventuellement faire poser des secours. Voilà, mais tout ça, c'est fait dans un cadre réglementaire que, bien sûr, nous respectons.
Faudil ?
Moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez nous...
Comment ? Encore une.
Bah, j'ai juste une question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée typique d'un raid au Sahara et quelles sont les principales difficultés rencontrées par vos équipes et quels sont les moments également forts de ce raid qu'on peut
Alors,
vivre ?
Alors, raid VTT ou raid voiture ?
Les deux.
Les deux. Alors, raid VTT, ça va être très simple. Il va y avoir le premier jour, il va y avoir un prologue qui va permettre de régler les vélos. Parce que les vélos, quand ils sont transportés démontés. Donc, il va falloir régler les pressions de pneus, savoir si ce sont les bons pneus, la chaîne, etc. Voilà. Première journée, le matin, prologue. Après, l'après-midi, repos. On va finir d'assembler les vélos, etc. Le lendemain matin, c'est sur 5 étapes, 5 jours. Le lendemain matin, le départ se fera aux alentours de 8h30, traverser Tamanrasset et aller jusqu'à la sortie de Tam, jusqu'à la ligne de départ. Et là, un briefing, on va vous expliquer ce que vous avez à faire, le nombre de postes de ravitaillement et surtout le parcours qui est enregistré sur un GPS que vous possédez sur le vélo, un GPS ou un téléphone, où vous suivez carrément l'ensemble des cyclistes, ou éventuellement vous vous fiez au point de repère que nous avons mis grâce à une équipe qui part environ 3-4 heures devant nous et qui va borner la totalité du parcours. Vous ne pouvez pas vous perdre.
Voilà. Parce que moi, j'ai eu peur que tu disais qu'on se repère avec les étoiles. Et là, je me suis dit, là, on est mal barré.
Pas cette fois-là. Non. Il y a un encadrement qui est fait pour ça. Et de toute façon, les deux ou trois premiers sont des gens qui ont déjà fait le parcours avec nous en reconnaissance. Et il n'y aura qu'à suivre. Et voilà. Vous en avez marre, vous vous reposez. Vous ne pouvez pas continuer l'étape, vous montez dans un des véhicules d'assistance et le lendemain matin, vous avez le droit de repartir.
Faudil, il va prendre la voiture balai. La voiture balai, ramasse.
Ben oui.
Voilà. Et un voyage coûte combien ?
Très bien.
Ça, c'est le billet d'avion. Vous avez le billet d'avion à votre charge. Ben, les billets d'avion, en ce moment, on vient de les prendre là, sont aux alentours de 250-260 euros aller-retour.
Ouais. D'accord, c'est raisonnable. Alors, oui.
Au départ de Paris, je ne sais pas, au départ de Marseille,
Marseille-Alger.
Au départ de Paris, en temps normal, les billets ne sont pas très chers. Hein.
Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ça va, on est sur des vols réguliers, c'est pour ça. Ouais.
Voilà, sur des vols réguliers. Et ensuite, si vous venez de la part de Beurre FM, eh bien, on vous fera une inscription à un tout petit prix.
Voilà. Voilà, vous avez entendu ce que vous a dit Michel Bizot. Alors, pour toutes les informations, vous allez sur le site de Mzab Tour, je le précise.
Ça c'est pour le rallye des Rennes.
Ah oui, d'accord, c'est pour le rallye des Rennes, d'accord. Okay.
Voilà, pour le regard by, c'est www.ogar avec 2G.
Oui, c'est ça, le Ogar, comment on dit, ouais.
.com.
www.ogar.com.
Ogar.com, voilà. Ogar avec 2G, AR, bike.
Oui.
.com.
D'accord.
Dessus, vous avez les numéros de téléphone, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez me joindre pour plus d'informations. À ce moment-là, si vous venez de la part de Beurre FM, je vous donnerai un prix défiant toute concurrence, parce que c'est particulier, parce qu'on a des accords avec Beurre FM.
Tout à fait, on est d'accord, oui.
Mais je vous invite à venir, parce que c'est un moment inoubliable. Et ensuite, ne vous imaginez pas qu'on va vous laisser sur le bord de la route, hein. À moins qu'on reçoive des instructions de Beurre FM. Non, inquiétez pas du tout.
Très bien.
Il y a une bonne ambiance. Il y a pas mal de nationaux algériens, un peu de partout, Constantine, Oran, Alger. Voilà. Et ce sera une bonne ambiance. Et c'est à faire. Vraiment, il faut le faire.
Bon, très bien. Michel, merci d'avoir été l'invité de Beurre FM. Michel Bizot, je rappelle. Vous êtes co-organisateur de ce Ogar Bike avec Mzab Tour. Il y a un partenariat avec Beurre FM. Merci d'avoir été des nôtres et puis donc vivement que l'aventure démarre.
un petit mot sur le rallye des Rennes.
Oui, rapidement, je vais relancer ma pub, c'est pour
on
ça.
On va faire rapide, je donne les dates.
Oui.
Simplement, c'est du 2 au 11 mars.
D'accord, ça c'est exclusivement féminin.
Féminin. Okay. Exclusivement féminin, entre Janet et Taman Rasset, 700 km, vous conduisez, c'est-à-dire les équipages féminins conduiront leur véhicule, mais pourront avoir avec elles, si elles le souhaitent, un chauffeur guide pour les éduquer dans le désert, leur dire comment passer les dunes, etc. etc. Du 2 au 19 mars à Janet. Janet à Taman Rasset, le rallye des Rennes.
Ok.
Vous allez sur le. Vous avez le site emsda, .com.
Très bien. Bah, écoute, Michel, bah, c'est bon. Là, moi, j'ai tout noté. Et puis, je rappelle juste qu'à nos auditeurs, c'est jusqu'au 19 mars. Je vous rappelle que, je crois que c'est trois jours après, c'est le ramadan. C'est bien calculé. Notre ami Toufik a bien fait son calcul. Profitez-en. Et c'est réservé uniquement à des équipages féminins.
Féminin.
Merci d'avoir été des nôtres, Michel. Et puis,
merci de m'avoir reçu et de nous avoir reçus.
Et puis, bon vent. Merci.
J'attends tes invités. Hein.
D'accord, avec plaisir.
Foot de sport. Foot de sport. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Oui, vous êtes très appris.
Non, on est dans les confidences de Facebook.
Bon, mon cher Fodil, on doit aller du côté du standard, c'est ça?
Oui, c'est déjà fait.
C'est déjà fait, merci. Bonsoir, bienvenue. Allô?
Allô?
Oui, bonsoir.
Ouais, bonsoir, on va répondre
à Azoul. Azoul, c'est
Elias
de Palaiso. Oui, j'allais dire... J'allais dire Massy, mais on dit... est-ce qu'on dit Massy-Palaiso ou on dit Palaiso tout court?
Massy-Palaiso, c'est la gare, en fait, à la ville de Massy et Palaiso, c'est côte à côte.
Ah, ok, ben oui. Ouais. Ça se voit que je ne suis pas un Parisien. Bon, je suis désolé, les gars, non, voilà. En fait, on dit Palaiso, ok.
Exactement,
c'est ça. Ouais. Yes, on t'écoute.
Alors, moi, je voulais réagir un petit peu tout à l'heure concernant l'échange sur la JFK.
Ouais.
Qui amène aussi sur la formation à côté, en parallèle.
Oui.
Bah en fait, moi, je suis d'avis que la JSK ne va pas descendre. Pourquoi? Ça ne va pas être grâce à l'incompétence des dirigeants, j'ai envie de dire, mais par rapport à tout ce qui est autour. En fait, par rapport à l'histoire, que ce soit de la région... le poids aussi de ce que représente la JFK au niveau national.
Bien sûr.
Par rapport aux supporters aussi. Donc, tout ça va faire en sorte que les gens sont toujours mobilisés pour pas que la JFK descende en deuxième division.
Mais ça, moi, le premier, j'ai pas envie, hein, lié à ça, je le dis tout de suite. Hein. J'imagine même pas dans le rêve que la JFK soit en deuxième division.
Ah ouais, c'est impossible. Et je voulais juste rectifier, cette année, c'est deux clubs qui descendent. Hein.
C'est deux clubs.
C'est deux clubs, ouais.
D'accord.
C'est deux clubs, ouais.
Deux clubs.
Ouais. Mais déjà, même.
Espérons que ça ne sera pas la JSK.
Bah oui.
Oui.
Ouais, mais quand même, après 15 journées, à moins que dans la phase retour, il faudra enchaîner par 3-4 victoires pour sortir un petit peu de la zone dangereuse, quoi. Voilà, comme on dit.
Et moi, je vais aller au-delà. Moi, j'en suis convaincu et j'en suis persuadé que malgré que là, la JSK, elle est avant-dernière au classement, mais au niveau africain, elle va vraiment faire honneur à l'Algérie. Ça, j'en suis convaincu. Quoi qu'il arrive, malgré qu'elle va enchaîner des défaites ou qu'elle va enchaîner des victoires, en tout cas, en Champions League africaine, elle va vraiment faire honneur. Ça, j'en suis convaincu et persuadé.
Peut-être parce que le club, il a l'ADN de l'Afrique et de... Dans le sang, comme on dit. Hein.
Exactement.
Mais oui.
Voilà. Et la JSK se transforme vraiment au niveau africain.
Hein. Ouais, ouais.
On l'a vu même à l'époque quand il y avait Medel et tout ça, ça n'avait rien à voir.
Ouais.
On a l'Algérie, même avant, quand il y avait Nashir Bouafmo, il y avait une JSK en championnat, une autre qui se métamorphose lorsqu'elle joue la Coupe africaine, soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF.
Tout à fait.
Et je voulais juste réagir en un mot par rapport à pourquoi aujourd'hui. En championnat algérien, en tout cas, on recrute pas des très bons joueurs étrangers, des subsahariens.
Mmh.
Alors, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les équipes européennes, elles viennent directement recruter à la source.
Oui, oui, absolument.
Alors qu'auparavant, c'était pas le cas. Auparavant, voilà, ils passaient par, entre guillemets, les grands clubs, hein, ils venaient à l'Étoile de Tunis, l'Étoile du Sahel, au Raja, etc. Mais maintenant, elles viennent même chercher, on le voit à travers les formations qui mettent en place les clubs français, que ce soit Metz, l'Olympique de Marseille ou Lyon, ils mettent en place des partenariats avec des clubs, par exemple, de Dakar ou autres. Ils viennent récupérer directement à la source. Alors qu'auparavant, tous ces joueurs-là, ils transitaient d'abord par les équipes nord-africaines.
Oui, il y avait ça.
Lien, j'ai juste une petite question. Mais comment ils viennent recruter ? Ils ont une cellule de recrutement.
Exactement.
Est-ce que nous avons pas ? On est bien d'accord.
Coach, tu as connu, tu connais toujours ces partenariats pays africains avec des clubs français. C'est vrai qu'il y a l'histoire du FC Metz qui est très marquante, etc. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à récupérer des joueurs.
Mais on n'en a jamais récupéré, nous. En Algérie, il n'y a jamais eu de grands joueurs africains.
Oui.
Si, on a eu des joueurs. On a eu Ebossé, on a eu Waseo, quand il était à la JASK, ou El Taghidi à une époque.
Ce n'est pas des joueurs de haut niveau, ça que tu racontes, toi.
C'est des joueurs qui ont confirmé.
Il n'y a rien du tout. Le problème, c'est que la filière. Mais écoute bien ce que je veux dire. La filière, elle est tunisienne et égyptienne.
D'accord.
C'est eux, c'est le Zamalek, le Ali, l'Espérance, les grands clubs tunisiens et égyptiens qui avaient des académies et des recruteurs qui étaient sur place. Et les recruteurs amenaient ces joueurs-là. Tout simplement parce que l'Algérie n'avait pas les moyens de payer ces joueurs-là. Nous, on ne récupérait que le 4e, 5e niveau. Tu as vu que le dernier cas des joueurs qui étaient au CRB, il s'est retrouvé dans le marché à demander à manger. On ne le payait pas, rien du tout. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on n'a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau africain en Algérie. Aucun. Sauf des échos. Comme ça, quand un mec, il dit, tiens, il y a un joueur qui végète ici, on va le prendre. Moi, j'ai eu le cas de... comment il s'appelle le joueur que j'avais été voir au Sénégal, quand on était avec la GSK, c'est en 2003, je ne sais plus. Et ce fameux joueur-là, Dabo, qui est venu, et que Hanashi n'a pas voulu prendre, et que Lusma a pris, qui a été fini meilleur buteur du championnat et tout. C'était une confusion qu'il y avait eu à ce moment-là. Ouais. C'est Moussa Saïb qui nous avait donné le joueur.
D'accord.
Il n'y a pas de filière algérienne. Il n'y a pas de recrutement. Surtout africain. Ouais. Ils prennent que des joueurs comme ça, qu'ils ont entendu l'écho. Là maintenant, il y a un peu, mais c'est des joueurs au 6e, 7e niveau. C'est
tout à fait.
Des joueurs de haut niveau. Tu as vu la Coupe d'Afrique aujourd'hui. Ouais. Parce que tous les joueurs sont partis.
On le voit à travers le niveau du Chad.
Tu le sais aussi bien que moi. Au Cameroun, ils partent dans tous les filières à 14, 15 ans maintenant.
Oui.
Dans les pays de l'Est.
C'est ce que m'a confirmé Manuel
Mabouanga. Les grandes académies qui marchent très bien, ce sont les académies de Metz. Oui. T'as celle du PSG, comment ça fonctionnait. T'as celle aussi de Marseille, t'as beaucoup d'académies qui se mettent dans toute l'Europe. Et ils récupèrent déjà les joueurs africains. D'accord. Sans problème. Ça leur coûte beaucoup moins cher. C'est pour ça que tu as, au Havre, même au Havre aussi.
Oui.
Tu as beaucoup de, tu regardes les matchs, t'as des Africains qui jouent, on voit que ça. Mais chez nous, en Algérie, il n'y a pas. Je sais pas ce qu'il me dit, Faudil, là, il me raconte des trucs. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de recrutement algérien, africain. Aucun.
Tu parles de quelle époque? Celle de
toutes les époques.
On a eu des joueurs de qualité. Je peux te citer des exemples. Koulibaly, par exemple, quand il est arrivé à la GSK, le Koulibaly aussi du MCA, OSCO, et Zenga qui continuent.
Ils viennent de nulle part.
Oui, mais
ils ont. Ils viennent pas avec le cachet du Zamalek, du club africain.
Parce qu'ils ont confirmé.
Mais ces clubs-là, ces gens-là, ils ont été où ces gens-là après? Ils ont
évolué ailleurs. J'ai pas suivi leur parcours.
Suis Koulibaly.
Mais ils ont confié. Tu parles de quel Koulibaly?
Le même qu'il tient.
Non, mais je t'ai cité deux.
Ndjang aussi, Yannick Ndjang qui a joué à la GSMB
derrière. Ndjang aussi quand il était à la GSMB. Si, ce sont des joueurs qui ont confié. Donc, par exemple, il était parti en Turquie.
C'est 1, 2, 3, 4.
Si, Hamzaoui, par exemple, je vais citer un exemple, un joueur algérien. Hamzaoui. Non. Il est parti au Portugal. Ensuite,
c'est du mal. Il a joué combien de temps?
Il a eu une blessure. Il a eu une blessure qui a ralenti sa vie. Sa carrière.
Non, il n'y a pas de recrutement africain chez nous. Sache-le.
Ah oui.
Comprends-le.
Mais ça nous arrive.
D'Africains.
Ça nous arrive d'avoir des joueurs de qualité. Certes, c'est vrai parce qu'on n'a pas de, cellule de recrutement.
Il y a eu un problème. En plus, il y a eu un problème à une époque.
T'as eu un critère, Mohamed?
Oui.
C'était les sélections nationales. Il fallait qu'ils soient sélectionnés. Ils ont cassé la règle. C'était plus les A. il disait des locaux ou des mecs en 21 ans, 18 ans, 16 ans. Donc s'il avait une sélection que le club lui donnait tout de suite, hop, il pouvait aller partir à l'étranger. S'il ne partait pas, ces gens-là.
Donc je rappelle un petit. Oui. À Faudier, c'était en. Vers 2009-2010, je me souviens, puisque je partais sur Alger souvent, j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment Mohamed Alawarawa. Et puis j'avais parlé à l'époque, dans quasiment moi 7-8 clubs algériens, t'avais des joueurs africains, t'avais 2-3. Et puis le président à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la décision d'interdire carrément le recrutement des joueurs africains. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais monsieur le président.
Ensuite, il s'est ravisé pour autoriser uniquement 2 joueurs.
Oui, alors non, je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, mais.
C'est très peu, ça.
Non, non, il m'a expliqué pourquoi. Parce qu'il m'a dit que quand les Africains ils arrivent, ils n'étaient pas payés.
Bah, bien sûr.
Et que, bien entendu, lui, en tant que président de fédération, que font les joueurs? Les joueurs vont se plaindre auprès de leur ambassade. OK? L'ambassade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte quand même les affaires étrangères algériennes. C'est la crédibilité du pays comme qui est en jeu.
Tout à fait.
Et donc les affaires étrangères, qu'est-ce qu'elles font? Elles convoquent la fédération, enfin à l'époque son président. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Règle-nous le problème. Et c'est là qu'effectivement une décision a été prise.
Et pourquoi on ne paye pas les joueurs?
Eh bien, il faut poser ça aux questions au président.
Voilà, ça veut dire, on revient toujours au même problème tout à l'heure, quand je t'avais dit qu'il fallait mettre les personnes adéquates qui ont les compétences nécessaires pour gérer des clubs.
Ben oui, mais à l'époque.
Il était une fois Blanche-Neige. Oui. Ça, c'est ce discours-là. Ouais, il était une fois Blanche-Neige. C'est
une et malheureusement, ce n'était pas un ou deux présidents, c'était quasiment tous les présidents qui étaient comme ça. Hein. Attention, hein, ça ne payait pas. Ça ne payait pas, faut dire.
Parce qu'on parlait des clubs professionnels.
Oui.
Et moi, ce que je comprends, c'est qu'un club professionnel, c'est une entreprise. Et en entreprise. Pour y être dans une entreprise, il faut savoir être actionnaire majoritaire et mettre les moyens. Oui. Pas mettre 30 000 dinars pour te proclamer être président dans un club.
Ouais. En fait, à l'époque, dans les journaux, les stars, c'était
tout
les
présidents.
Oui, les stars, c'était les présidents, c'était pas les joueurs. Oui, oui. Les joueurs n'étaient pas du tout starisés, c'était les présidents qui étaient starisés. Voilà. Et c'est important de le dire. Merci, Elias, pour cette intervention.
Ouais,
en tout cas, tous les clubs. Merci beaucoup, Elias. Bonne soirée et bonne semaine en perspective.
Merci.
En tout cas, tous les clubs, sans exception en Algérie, sont gérés par les Walis. Hein, en Algérie, parce que tous les clubs sont gérés par l'argent de la Wilaya.
Bah, tu sais pourquoi? Parce que c'était.
Là, je répète bien. Hein.
Non, mais c'est parce que
tu l'as vécu.
Mais faut-il, la réponse est simple. Parce que le football est un stabilisateur social. On a besoin de foot pour.
L'Argentine, on a besoin de former les jeunes.
Oui,
l'Argentine
qui subit une grave crise économique par rapport à nous ici en Europe, c'est la nôtre. L'Argentine, elle est presque en mode faillite. Mmh. Et ben, la Coupe du Monde, elle a donné du baume au cœur aux Argentins. Ça joue. Donc le football est un stabilisateur social. Voilà. Même dans tous les pays, il ne faut pas croire. Hein. Tous les pays du monde aujourd'hui ne peuvent pas se passer du ballon rond.
Oui, ça, on le sait tous. Le football, c'est l'opium du peuple.
Ben oui.
Tu sais, c'est. Comment on appelle ça? Oui, non, c'est très bien. Très, très bien.
Prend un deuxième appel, mon cher Fadil. Allez, on y va.
C'est toi qui dis.
Bonsoir. Allô? Allô, allô?
Allô?
Oui.
Ah, notre ami.
Allô, oui, vous m'entendez? Oui.
Très bien.
Oui, salam alaikum, c'est Abdelkrim de Grenoble.
Ben oui, Abdelkrim, ça va?
Bonsoir, Abdelkrim.
Bon, je passe le bonjour à Foubdil, je passe le bonjour à Koutsanzak. Par contre, Nasser, ce soir, prends pas mal, hein, mais je vais pas être d'accord avec ce que tu as dit la semaine dernière, c'était après mon appel. Donc, je vais te mettre, si je peux me permettre, je te mets un carton jaune.
D'accord.
Un carton jaune ou quoi?
Je vais comprendre pourquoi.
Ah, c'est là, c'est la meilleure, oui, vas-y.
Ça, c'est bien.
Magnifique. Voilà. Je te mets un carton jaune, je vais t'expliquer pourquoi.
Dis-moi.
Bon, en fait, c'était par rapport. À ce que tu disais la semaine dernière, comme quoi tu disais que le CHAN actuellement en Algérie, c'est une coupe en plastique, je suis pas d'accord avec toi et je vais me justifier pourquoi. Ouais. Tu vas comprendre. Tiens, faut savoir qu'au niveau des accréditations, plusieurs articles et pas des moindres comme RFI et compagnie Jeune Afrique et d'autres que j'ai oubliés, ont dit que c'est un record au niveau des accréditations pour un championnat d'Afrique local et qui a même dépassé. Le nombre d'accréditations de la CAN au Cameroun senior qui a eu lieu en janvier 2022 au Cameroun.
Oui.
Au niveau des accréditations, donc c'est pas rien. Au niveau de
l'accréditation,
la plupart des journalistes africains qui sont présents parce que leurs pays sont qualifiés, et ben ont tous été surpris et vraiment impressionnés positivement par la très bonne organisation de l'Algérie et aussi, sans parler aussi des Algériens aussi qui ont bien accueilli leurs frères africains dans les stades, il n'y a pas eu de problème. Et aussi, ils ont été, comme vous le savez, impressionnés par les nouveaux stades algériens, dont le stade d'Oran et de Baraki, pour ne citer que cela. Voilà. Parce que je ne parle pas d'Annaba et Constantine, parce qu'ils ont été rénovés.
Oui, rénovés, voilà. Oui.
Donc, juste pour ça, Nasser, c'est pas une coupe en plastique. Donc, voilà, je te laisse répondre.
Non, Nasser, t'as parlé.
Attends, je vais répondre quand même.
Oui, oui, mais attends, Nasser va te répondre parce que tu sais ce que je vais faire. Attends, j'ai une courte pub. Vas-y. C'est parce que là, on n'a pas parlé de l'organisation. On a parlé du niveau. Ça, c'est autre chose. Attention, Abdelkrim, quand on parle de niveau. On ne parle pas d'organisation. On l'a vu. Les terrains sont là. Tout est là. Tout a été fait pour que ce soit une réussite. On est d'accord. Mais c'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau du jeu. Et au niveau du jeu, excuse-moi, c'est l'ennui total. Ok, il faut
appeler. Il y a quand même des matchs spectaculaires, quand même, comme Mali-Angola, comme le match Mozambique-Libye. On a eu des matchs où il y a pas mal de buts, quand même.
Bah, si tu appelles ça du niveau, excuse-moi, Abdelkrim.
Après, je vais répéter, comme j'ai dit la semaine dernière, la seule chose que, comme j'avais dit, bon, si vous parlez du niveau, je suis d'accord avec vous. Le niveau, il n'est pas top.
Oui.
Au niveau de ce championnat d'Afrique des locaux. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi pourquoi il est pas top aussi. C'est parce que, je l'avais dit la semaine dernière, en plus du forfait du Maroc, et même franchement, c'est le Maroc qui n'est pas déclaré forfait, ça n'a rien changé parce qu'il faut savoir que depuis l'élimination de l'équipe locale marocaine en quart de finale de la Coupe Arabe il y a un an, quand notre équipe locale l'avait remportée au Qatar. Et ben, la Fédération Marocaine de Football avait dit sur son équipe locale et c'était les U23 qui étaient partis.
Mais les U23, attends. Non, Abdelkrim, les U23, ils préparent les Jeux Olympiques. C'est pas n'importe quoi.
Va sur les articles, va voir l'équipe qui devait partir au Cham.
Ouais.
C'est les U23, même la liste qui était sortie il y a un
an. Ben oui, non, mais attends, mais les U23, c'est attends, on parle de 23 ans. C'est pas des bleus, c'est pas des débutants.
Oui, mais va dire ça au président de la fédération.
Non, mais il faut arrêter de jouer avec les mots après U23.
Regardez la liste. L'équipe du Maroc locale, liste pour le Cham en Algérie, ils devaient avoir la liste. C'est que des jeunes joueurs locaux.
Ben oui, mais c'est normal. Mais attends, Abdelkrim, non. Les U23, pour moi, ils sont d'un niveau aujourd'hui. Oh, regarde, tiens, Haaland, il a 20 ans. C'est un U23, donc tu vas dire U23. Non, même locaux. À ce niveau-là, non.
L'équipe olympique avec
oui. Attends, je marque ma pause pub. Et ben, d'abord, le coach, il va te répondre. Et puis, on va revenir sur cette histoire des U23, sur laquelle, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que les gens peuvent penser. OK ? Allez, à tout de suite.
Foot de sport. Revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
Ah oui, troisième et dernière partie de cette deuxième heure. On arrive, à la fin de l'émission. Abdelkrim est toujours avec nous. D'abord, Abdelkrim, Nasser va te répondre sur les critères d'organisation. Je ne pense pas qu'il ait parlé d'organisation. Il avait des coupes en plastique. C'était Nasser par rapport au niveau du jeu.
T'as tout dit.
Ah oui. Moi, c'est que j'ai compris. Hein. J'ai pas compris autre chose.
Non, mais Abdelkrim, c'est. Bon, là, il a peut-être mal interprété le propos. Non, je parlais du jeu. Et je le répète, j'ai encore vu hier Mozambique-Algérie. Franchement, ça frôle. On va pas dire le scandale, mais tu te rends compte réellement de la vérité. Parce qu'il faut pas que tu oublies quand même que c'est les niveaux, les joueurs que tu vois là. C'est quand même des mecs qui ont été déjà recrutés dans des clubs européens, voire russes, voire dans les pays de l'Est, voire en Asie. C'est ce qui reste là. C'est ce qui reste des joueurs qui sont pas encore partis.
Ouais.
Donc, quand tu les vois jouer, tu vois des scènes... ouf. J'ai dit, punaise, j'ai dit... surtout hier, hein, j'ai regardé le match Mozambique-Algérie. Franchement, nous, encore, au niveau algérien, c'est le troisième, quatrième niveau.
Ouais.
Parce qu'on a l'immigration qui bloque. Mais il faut quand même dire que c'est nos meilleurs joueurs du pays qui sont là. Donc... Moi, j'ai dit, oui, je répète, c'est une coupe pour les recruteurs, pour les managers, pour dire on ne sait jamais, peut-être qu'on va passer...
Il y en a un qui va percer, c'est ça.
Il y en a un qui va montrer des choses intéressantes, qui peut nous intéresser. Et si tu t'amuses à suivre les joueurs qu'il y a dans cette compétition, tu verras qu'il y en a certains qui vont partir dans des clubs en D2, D3 en Belgique, en Islande, au Danemark, partout. Tu vois que le recrutement, il a... Donc, que les officiels applaudissent le stade, le terrain, les loges et tout, je peux comprendre, comme eux, je serais. Mais bon, après, on parle du jeu. Hein,
si mais moi, à l'époque, je me rappelle de Manu Mabwang, qui ouais. aujourd'hui à la Fédération Camerounaise de Football. Mmh. Il me disait que même les gamins camerounais, ils partaient, par exemple, au Vietnam, ils partaient en Inde. Là où il y a un salaire à gagner pour nourrir la famille, ils n'hésitent pas. Il m'a dit, c'est pour ça qu'au niveau de nos championnats locaux, nous n'avons plus rien. Il est camerounais, il est très bien placé. Nasser, tu le sais aussi, les très grands clubs camerounais aujourd'hui ont quasiment disparu de la circulation. Je pense au Canon du Yaoundé, à l'Union de Douala, Tonnerre du Yaoundé. De temps en temps, même maintenant, on a du mal à avoir avec Coton Sport de Garoua ou le Racing Bafoussam, etc. On a du mal. Les grands clubs nigérians, ils ne sont pas là, ils ne voient rien. Il y a un souci, il y a un gros, gros problème. Les Angolais sont présents parce qu'il y a le pétrole qui permet de financer quand même un peu le niveau. Mais, par exemple, au niveau du Sénégal, qui a quand même aujourd'hui une très grosse équipe, le Sénégal, tu prends la Jeanne d'Arc de Dakar aujourd'hui, t'as rien. C'est pas l'équipe de la Jeanne d'Arc des années 95. Aujourd'hui, la Jeanne d'Arc de Dakar, il y a quasiment pas grand-chose. Voilà, mon cher Abdelkrim.
Alors, juste une question.
Oui.
Juste pour finir, Mohamed, j'allais dire quoi ?
Ouais.
Juste pour finir sur mon intervention. Par rapport... Il y a beaucoup de... choses qui ont circulé par rapport à l'annonce du pays qui va organiser la CAN 2025.
Oui, mais ça, écoute...
Je tiens à dire que je vous donne l'info.
Ouais, c'est n'importe quoi, ouais.
C'est pas celle qu'on fait croire comme quoi elle aura lieu le 10 février au Maroc, la veille de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Eh ben non.
Non, mais...
Parce que déjà, c'est pas neutre. Alors, je vous donne la version... la vraie version. Alors, elle aura lieu le 10 février, voire le fin février. C'est pas sur le 10.
Ouais.
C'est fin février.
Oui.
Et elle sera annoncée... au siège de la CAF au Caire par le comité exécutif de la CAF au Caire et pas au Maroc ou où on fait croire.
Ouais. Non mais de toute façon la Confédération africaine de football Abdelkrim, je vais te le dire, elle a quand même bien réfléchi. On sait que là va démarrer le premier championnat du monde des clubs au Maroc, on le sait, ça va être quand même le gratin des grands clubs européens et sud-américains qui vont être présents. L'Afrique, je crois qu'elle sera représentée par le Ahly du Caire, il me semble, ou un deuxième club.
Mais... Là, ça sera représenté par le Wydad du Casablanca et du Ahly du Caire.
Voilà, donc le Wydad qui est quand même double tenant aussi de la Ligue des Champions. Donc ça veut dire quoi, Abdelkrim ? Ça veut dire que la Confédération africaine de football a bien compris actuellement les enjeux qui se déroulent dans la zone, dans la région, et pour ne pas heurter tel ou tel pays, elle a pris la décision d'annoncer l'organisateur de la CAN 2025 à la fin du mois de février à partir de son siège au Caire.
Et au Caire.
Voilà, oui, c'est tout. Oui, parce qu'au début, c'était prévu que ce soit annoncé vers le 10 février. C'était ce qui était dit depuis le début. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a un comité exécutif, il y a des commissaires, il y a des qui se sont rendus dans les pays qui ont candidaté.
Oui, mais c'est pas fini, justement, c'est pour le 10 février.
Oui, oui.
Ils n'ont pas pu faire tous les
voilà, parce que là, par exemple, on le sait maintenant qu'il y a une candidature qui ne peut pas qui ne peut pas être retenue, c'est celle conjointe du Bénin avec le Nigeria.
Oui, Nigeria.
Parce que le Cameroun a organisé, parce que le Cameroun fait partie de la même zone dite d'influence, et le Cameroun, comme il l'a organisé là récemment en 2021, donc du coup la confédération ne peut pas se permettre de prendre un pays de la même zone. Du coup, effectivement, il va y avoir un beau duel entre le Maroc et l'Algérie, c'est tout. Il ne faut pas non plus après s'extasier. Ah, non, non.
Vous pouvez confirmer ou pas ? Apparemment, l'Afrique du Sud s'est bien présentée. Hein.
Donc.
Il y a des fake news qui disent comme quoi c'est pas vrai, c'est pas présenté. Ils veulent organiser la Coupe du Monde féminine en 2027. Mais moi, dernièrement, j'ai lu un article du président Motsepe, sud-africain, président de la CAF.
Oui.
Et quand il a cité les noms des pays candidats, il y avait bel et bien l'Afrique du Sud.
Oui, mais pourquoi pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut bien se rendre à l'évidence, c'est que. Encore une fois, je pense que la Confédération va jouer à l'équilibre. Elle ne peut pas se permettre, sachant que le Cameroun l'a organisé en 2000.
Oui,
ils vont pas encore aller plus vers le sud. Je pense que 2025, ce sera un duel Algérie-Maroc, quoi qu'on en dise, et que peut-être que 2027, elle ira en Afrique du Sud, et que en 2029, elle reviendra vers un pays nord-africain. On ne sait pas lequel. C'est pour ça que j'ai dit, je pense que le comité exécutif de la CAF va trancher, non pas sur une CAN, mais sur trois CAN. C'est un petit peu c'est mon sentiment, c'est ce que je ressens.
Oui, je pense qu'il va annoncer, en fait, en même temps, il va annoncer le pionnateur de la CAN 2027 et 2029, tu penses ?
Oui, oui, je pense qu'ils vont aller jusqu'à 29. Ouais. Pense qu'ils vont aller à 29.
Bon, j'ai fini, je passe juste le bonjour aux membres de DZ Foot qui m'écoutent,
oui.
Comme Rizzi, comme Maurice 31, et comme Montana et Tam Gout.
D'accord.
Non, je passe le bonjour à ceux qui m'écoutent.
Tam Gout.
Ouais, t'as un rebelle en plus comme toi.
Ben oui, je le sais. Quand tu m'as dit Tom Gout,
ah, tu sais. Non, tu sais parce que c'est peut-être un prénom berbère.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis Tam Gout, c'est une région en Algérie. Hein.
Ah, je savais pas.
Bah, bien sûr, hein, t'as Tam Gout, attends, quand même.
Ouais, ben t'as où, Tizi ?
Non, c'est pas vers Tizi. Non, non. Tam Gout, c'est de l'autre côté.
Ah, d'accord, ouais. Ok. Eh ben voilà.
Merci Abdelkrim.
Bon, allez, je vous laisse. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, donc finalement, c'est vrai que Nasser, à l'époque du Hayatou, on avait annoncé plusieurs cannes. Et il y a eu la chute de l'empire Hayatou, il y a eu l'arrivée de Ahmed Ahmed, qui avait bouleversé l'organisation de compétition. Mm-hmm. On avait retiré la canne à la Libye, et puis elle a été récupérée... dans un premier, alors je me rappelle plus comment c'était. Il y avait trois cannes qui se suivaient sur l'Afrique francophone. Il y avait Côte d'Ivoire. Il y avait d'abord il y avait Cameroun, Côte d'Ivoire et Guinée. Voilà. Le Cameroun n'a pas pu l'organiser à la date convenue. Finalement, l'Égypte récupère le bébé, mais on n'a pas pour autant mis le Cameroun de côté. Ça c'est une chose. Ensuite, la Côte d'Ivoire elle a pris du retard. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'histoire du Covid. Donc, toutes les compétitions mondiales ont été modifiées. Et lorsque la commission est passée en Guinée, elle s'est rendue compte qu'il y avait un retard considérable. Et du coup, ils l'ont retirée à la Guinée, celle de 2025. Voilà. Donc, effectivement, la Côte d'Ivoire va l'organiser l'hiver prochain. C'est-à-dire, on sera en 2024. Est-ce que la CAN de 2025 sera organisée en 2025 ?
Pourquoi on ne prend pas initialement son...
Ben parce que, oui, ben parce que la Côte d'Ivoire, c'est un problème de climat, l'équateur, tout ça et tout. Et que on va la faire encore en hiver. Ça veut dire que... parce que si ou l'Algérie ou le Maroc l'organisent en 2025, eux vont maintenir, à mon avis, un calendrier comme à l'européenne. Et c'est le seul moyen à faire de récupérer, c'est-à-dire de rattraper le calendrier... et d'aller à une Coupe du Monde dans les normes. Puisque USA, Mexique, États-Unis, ça va se dérouler en été. Ce qui s'est passé au Qatar cette fois-ci, c'est une fois, mais pas deux fois.
Ouais, mais bon, tu dis que les États-Unis, c'est ceux qui ont 80% des matchs. Hein.
Oui, oui.
C'est ceux qui mettent Canada et Canada.
Oui, oui, oui.
Mais c'est la rigolade, ça.
Ouais, mais parce qu'à l'époque, c'était...
Moi, je suis étonné quand même que le Maroc vient se coller... dans l'organisation de la Coupe d'Afrique, comme ça, à la dernière minute, dernier moment, je suis étonné. Ouais, je suis vraiment étonné.
Ils étaient cinq candidats au départ. Hein.
Oh, je sais.
Algérie, Maroc, Afrique du Sud.
Non, l'Algérie est venue suppléer suite.
C'est ça.
À l'abandon de la Guinée.
Oui.
Est venue pour être celui-là qui va dépanner.
C'est pour ça que d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle tenait à organiser le CHAN. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des stades. Il y a ce qu'il faut pour faire une CAN, quoi.
Ouais, ils vont les avoir sur l'hôtellerie. C'est là qu'ils vont les avoir.
D'accord.
Sûrement.
Ouais.
Les télécoms.
Ouais, parce que.
Les grands stades, oui, peut-être.
Ouais. Parce que les stades d'aujourd'hui, on les a, là, c'est maintenant.
Ouais, ouais. Mais il faut surtout les câbles et la télécommunication.
Ouais, c'est ça.
Ça, et les grandes gares, les trains, puis regarde les hôtels, l'hôtellerie. Est-ce que tu as des hôtels pour les supporters et tout. C'est comme ça qu'ils pensent, eux. Même s'il n'y a personne qui vient. Mais eux, ils le pensent comme ça. Ils te disent, voilà, dans le cahier des charges, il faut ça. L'hôtellerie 1 pour les dirigeants des équipes et l'hôtellerie aussi pour les supporters qui viennent. Algeta. Un peu, après dans les autres villes. Il est là le gros truc. Hein.
Mais du rien, mais c'est un peu compliqué quand même.
Hein?
C'est pour ça que les experts de l'organisation comme ça, d'un événement comme la CAN, c'est quand même c'est une équipe. Hein, c'est des gens qui sont qui ont l'habitude d'organiser ce genre
d'événement. Il y a des pays, Mohamed, il leur laisse des passes droits, il y a d'autres qui ne laissent pas. Quand la dernière Coupe d'Afrique qu'il y avait au Cameroun, est-ce qu'il y avait le TGV, il y avait le train, il n'y avait pas bon, ça.
C'est vrai en plus.
Bah alors, et là on a accepté, c'est Hayatou l'histoire. Elle est là. Nous on va lui demander le TGV, les fusées, les avions, les aéroports top niveau, des trucs de ouf, c'est sûr. Hein. Bon, ça serait une bonne chose de faire une Coupe d'Afrique chez nous, ce serait sympa.
Ben écoute, parce que la dernière fois qu'on l'a organisé, c'était en 1990, hein, ouais, ça fait une éternité.
Ça fait 25 plus 35 ans.
Ah ouais, non, non, non. Je pense qu'à un moment donné, oui, les dirigeants de la Confédération. Bon, après,
c'est
vrai.
C'est le Maroc qui vient te bloquer. C'est ça l'histoire. Ouais. C'est le Maroc, ils ont mieux que toi. Ouais. C'est ça l'histoire. Ils ont, ils ont ce qu'il faut, les stades et les hôtels.
Ouais. C'est, donc, pour toi, c'est au niveau de l'hôtellerie que.
Bah oui, l'hôtellerie, ça va être l'excuse. Pour nous donner des choses. Mais maintenant, les stades, d'ailleurs, on les a. Ouais. On a les beaux stades. J'ai vu sur la Daranaba, il m'a bien plu. Putain, comment il était refait.
Ah ouais, ouais, t'as vu. On dirait pas. Hein.
Ah, magnifique.
Ouais, ouais.
Et voilà, après, t'as le tas de petits Zouzou qui arrivent, t'as Malraki, t'as Nubera qui est là qui arrive, t'as le 5 juillet, t'as Blida aussi. Ouais. T'as des vrais stades là. Bon, maintenant, on va être au bon vouloir de nos amis, mais comme on n'a personne dans nos instances là.
C'est surtout ça qui fait mal.
Bah, bien sûr,
c'est oui, quand tu n'as personne dans les instances.
Bah, bien sûr, tout est là.
Ouais. L'influence, elle est là.
Tout est là. Tout est là, crois-moi.
Très bien. Bah, écoute, coach, on arrive à la fin. Ouais. Alors, Fodil est.
Faudil, hein, t'as vu, hein, il sauve.
Ouais, Faudil a disparu de la circulation. En tous les cas, nous, on arrive au terme de cette émission.
Il n'est pas fiable.
Ouais.
Il est gentil. Ouais.
Bon, bonne fin de soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 18h-20h. Et puis, parce que l'actualité, elle, sportive, avance toujours. Et on connaîtra. Ah ouais, tiens. Viens dire au revoir, Faudil. Ouais.
Je suis là, Mohan, je suis là.
Oui. Bon, merci.
Merci à toi, Mohan. Merci, coach. Bonne semaine à tous et bonne soirée.
À dimanche prochain.
T'as pris ta politesse, c'est bien, Fadil.